Dans le tempo, c'est déjà l'épisode 31, générique. Bien voilà.
Bienvenue Salman.
Mais bienvenue Daz.
Encore un lancement que je qualifierais de goldé.
Oui. Oui. C'est... Non mais écoute, il faut mettre un peu d'identité dans ce format.
Moi j'aime bien.
Petit lancement comme ça.
Non, j'aime bien. Et puis on se retrouve. Alors on est samedi. Je sais pas si les auditeurs les viewers.
Non, ils savent pas. Mais c'est vrai que on enregistre un samedi après-midi, ouais, ce qui n'est pas courant.
C'est pas courant.
Mais c'est bien aussi.
Et on va faire ça la prochaine fois aussi.
Oui, absolument. Avec un sujet particulièrement intéressant. On va parler de reggaeton.
Ouais.
En vrai, non mais attends, style important, extrêmement influent actuellement.
Oui.
Moi, je ne maîtrise absolument pas.
Si, señor.
Et
il faut parler espagnol, quand même, tu vois.
Absolument. Non, mais ça va être intéressant de découvrir un peu plus en profondeur, tu vois, ce genre, sa diversité,
ouais, non, mais
son histoire, etc.
Tu mais en tout cas, là,
ouais, on parle pas de reggaeton.
On n'est pas sur du reggaeton aujourd'hui. On est sur un style beaucoup plus francophone, j'ai envie de dire maintenant.
Ouais, c'est vrai.
On va parler rap.
Ouais.
Et pas avec... n'importe quel rap. Et pas avec n'importe qui.
En plus.
Eh oui.
T'écoutes un peu de reggaeton, Florian ?
Pas du tout.
Oui, donc l'invité, c'est Florian Le Serre, de 135 Médias, absolument. Homme de multi-talent, multi-casquette. Est-ce que tu ferais pas un petit peu
son panégyrique ? Merci d'être avec nous.
Bah, merci de m'avoir invité, les gars.
Bah, avec plaisir.
Au pied levé.
Alors, il se trouve que tu es effectivement le président et fondateur de 135 Médias. 135 Médias, qui est une agence qui accompagne en gros artistes, labels, à la fois sur l'aspect business, sur les contrats, etc., mais aussi dans la communication. C'est à peu près, pour résumer, ça te
très
convient ?
Bien fait.
Exactement. Parfait, je suis bien. T'as débuté, c'est intéressant parce que très vite, mine de rien, t'étais dans le milieu de la musique,
ouais.
En bossant chez Dean Records dans un premier temps.
Exactement.
T'étais encore étudiant à l'époque, donc le label de Medine.
Ouais. De Salsa, le producteur de Medine, qui produit Medine.
Ah, parce qu'il y a aussi Mind qui est une structure au-dessus.
C'est le nouveau nom de Dean
Records.
Ok,
très bien. Et donc toi, à l'époque, en gros, tu débarques et très vite, en fait, tu te retrouves à gérer même ce label.
Ouais, en fait, j'ai débarqué Dean Records en 2015, donc ouais. J'avais 21 ans.
Okay.
J'ai eu la chance de tomber sur Salsa, la Sainte Konaté, ouais. Qui est du coup l'associé toujours de Medine.
Okay.
Et il m'a donné beaucoup de responsabilités très tôt.
Okay.
Et je travaillais beaucoup, encore plus que maintenant, je pense.
Ouais.
Et du coup, ouais, j'ai eu la chance de faire plein de trucs, et notamment vraiment de bosser sur la partie gestion de la boîte.
Okay.
Et bah, c'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses à l'époque où j'étais stagiaire.
Ouais, j'imagine.
T'avais, enfin, ton cursus, du coup, parce que t'es rentré pendant que tu faisais tes études, c'était,
ouais.
T'étais dans, enfin, tu t'orientais déjà sur ce... Ce type de métier, ce...
Alors, pour essayer de la faire courte, moi, en gros, j'ai toujours voulu entreprendre et j'ai toujours fait des trucs. C'est-à-dire que j'ai eu Internet assez tard, à mon époque, mm-hmm. dans le sens où j'ai eu Internet genre à 15-16 ans. Donc, quand j'ai eu Internet à 15-16 ans, je me suis dit, si j'ai Internet, maintenant, faut faire quelque chose avec. Plutôt qu'être dans le truc du gaming ou quoi. J'étais ouais. vraiment dans un truc de, vas-y, j'ai Internet, je vais apprendre à faire des choses. Et j'ai même eu Internet au moment où j'ai un pote qui rappait. Je connaissais pas le rap, c'est lui qui m'a appris c'est lui qui m'a montré le rap.
Okay.
Et du coup, il m'a dit, tu vas être mon manager. Moi qui étais dans un truc de, ouais, je vais être ton manager, trop cool. Donc, j'ai essayé de faire des choses concrètes. Donc, le premier truc que j'ai fait quand j'ai eu Internet, c'est d'apprendre à faire cet Internet pour vendre sa musique avec des allopasses. Donc, c'était.
Ah ouais.
À l'ancienne.
Ok.
Et du coup, j'ai appris à faire des sites et j'ai développé ça. J'ai commencé à faire des sites pour moi, puis pour des projets, puis pour des clients.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, en parallèle de mes études, je crée des sites Internet et du coup, je me suis dit, bah, si je sais déjà faire ça, je vais pas faire d'études là-dedans. Je vais juste faire des stages là-dedans pour genre valider mon cursus. Mmh. Et en parallèle, je vais faire des études dans la gestion d'entreprise.
Okay.
Comme ça, j'aurai le cursus communication, le cursus business. Et à la fin de tout ça, je serai câblé des deux côtés.
Puis incroyable, on retrouve ça dans 135 médias.
Exactement.
Étonnant.
Bah oui, c'est la déclinaison de ce que j'ai fait au
moment. J'imagine bien.
Et donc, je faisais des sites internet, je faisais du référencement, de la communication digitale pour plein de types de clients. Et donc, tout ça en parallèle de mes études, j'étais freelance en parallèle. Et en gros, je kiffais le rap. J'avais créé un blog où je parlais de rap. Et un jour, j'étais avec une pote qui m'a dit, mais si tu kiffes le rap, pourquoi tu bosses pas dans le rap? Et moi, c'était ça. Je me disais, le rap, c'est bien, mais c'est en galère, y a pas d'argent, ça va être compliqué, c'est dur de rentrer dedans. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, si t'aimes bien ce que tu fais, en vrai, t'arrives toujours à en vivre et à faire un truc cool. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais postuler pour trouver un stage pour mon master dans un truc de rap. Et comme j'étais fan de Medine, j'envoie un mail au label qui est réceptionné par un pote à moi qui maintenant est directeur artistique.
Ah, il avait déjà les connexions.
Non, justement, c'était pas encore mon pote à l'époque, je connaissais pas.
Ah ouais.
Donc j'envoie le mail, okay. Défaut d'orthographe, il fait quand même passer au boss du label qui dit vas-y, je vais l'appeler. Il m'a appelé, il m'a fait un entretien d'une heure et demie au téléphone en me disant c'est quoi la différence entre Caris et Gradure.
Okay.
Donc j'ai été convaincant visiblement et finalement je me retrouve à bosser en stage chez Dean Records et c'est ma première expérience dans la musique et après le reste a déroulé.
Donc ouais, tout de suite tu évolues chez Dean Records, après tu bosses aussi, bon, on récapitule rapidement, hein, t'as fait d'autres choses, mais tu bosses avec Bouscapé,
ouais.
Notamment sur le développement du business,
c'est
de
ça.
La stratégie, etc.
Mais en fait très tôt j'ai bossé chez Bouscapé, okay. Parce qu'en fait quand j'étais chez... quand j'étais chez Néné Record, on faisait des rendez-vous avec Bouscapé. Ouais. Donc un jour, on fait un rendez-vous avec Bouscapé et avec Ahmad et Fif. Ahmad qui est devenu du coup un très grand ami maintenant. Mmh. Et en gros, Ahmad, à un moment, parle à Salsa, qui est son, vraiment son proche. Il lui dit, c'est un peu son grand frère, tu vois, Salsa. Il lui dit, ouais, il y a un mec qui a un blog de rap que je kiffe en ce moment. Et il dit, bah, ce mec-là, dont tu kiffes le blog, c'est le mec avec qui je suis venu la dernière fois. Parce que moi, je mettais pas mon blaze. Mmh. Et donc, du coup, il a dit, ah, ça tue, j'aurais bien voulu bosser avec lui. Et ça, il dit, bah, vas-y, on envoie lui un message, parlez-vous, etc. Donc, je me mets à écrire des articles pour Bouscapé, genre 4 mois après avoir commencé chez Néné Record. Mmh. Donc, j'ai commencé par ça, des articles, et puis finalement, on est arrivé à développer le business de la boîte, quoi.
Okay. Bon. Après toutes ces expériences, tu te dis, bah, attends, j'ai aussi bossé pour moi-même.
Exactement.
Tu montes ta boîte.
C'est le côté entrepreneur.
Exactement. Exactement. Juste pour, rapidement, des idées d'artistes label avec qui vous bossez, pour qu'on ait une idée. Vous êtes plutôt bien placé, globalement.
Ouais, on a la chance d'avoir misé sur les bons artistes, parce qu'on fait beaucoup d'artistes qui sont montés au moment, enfin, qui n'existaient pas quand on s'est lancé, quoi. Ça, ouais. On a commencé, entre guillemets, avec eux. Et là, aujourd'hui, on a dû bosser en l'espace de 4 ans avec une 40aine d'artistes. Et la grande majorité, on travaille encore avec eux. Et on fait beaucoup de nouvelles générations. Actuellement, par exemple, on va faire MJ, Bushy, Capri, Bendo Z. On fait aussi des artistes en plus ancienne génération. On va faire Jaja et Dinaz, on va faire Midi.
Ça, c'est de l'ancienne génération.
Enfin, ça lui fait mal à
la je vais mourir.
Bah, ça va vite aujourd'hui.
Ça va très vite.
Et donc, du coup, voilà, c'est ça. On fait YL, on fait aussi des trucs qui sont un peu hors rap. On fait Wajden notamment.
Ouais.
On fait Z de 13 blocs en communication.
Aussi un peu avec Freeze aussi, Freeze Corleone.
On bosse surtout avec H22 et du coup, on a été amené à bosser sur le projet commun avec Freeze.
Ouais. Menace Santana, Boleman, c'est toujours d'actualité.
Alors, Boleman, on bosse plus avec lui. Menace Santana, on bosse avec lui.
Okay. Bref, des beaux noms.
Ouais, des beaux noms.
Qui sont à la fois émergents, à la fois certains beaucoup plus installés aussi. Ouais. Enfin, globalement, un panel assez large d'ailleurs, même d'un point de vue stylistique.
Ouais, en termes de style, on a pas mal évolué. Ça, c'est aussi grâce à Gabriel qui m'a rejoint il y a 2 ans. Okay. Et qui, du coup, moi, j'avais des goûts très, on va dire, rap street à la base.
Okay.
Et il m'a ouvert mon esprit et je me suis retrouvé à bosser sur des mecs que maintenant je kiffe. Un Menace, j'adore. Bushy, trop chaud. Enfin, tu vois, genre, ça m'a amené aussi à développer d'autres choses, puisque le rap a aussi commencé à changer, donc il faut faire aussi sa mise à jour. Ça va tellement vite que je dois faire ma mise à jour, tu vois. et donc, ouais, on bosse avec beaucoup d'artistes qui, où il se passe quelque chose sur eux, donc on a que des artistes où tu vois, il y a un sacré niveau de développement quand même, et aussi beaucoup d'artistes montants qui sont très regardés, donc c'est cool. On arrive à bosser sur ces mecs-là où qu'il faut avoir actuellement, quoi.
Et tu te rends compte, Daz, il a 28 ans, t'as pas de bêtises, c'est ça?
Ça, ça me fume.
Sa boîte, il l'a montée il y a 4 ans et.
Ouais.
Assez impressionnant.
Il y a des gens, c'est, ils vont à l'essentiel, ils y arrivent vite et ça fait très plaisir à voir.
Ça doit être un sacré requin, Florian.
Non, au contraire. Hier, j'étais avec un producteur d'artiste, d'un très gros artiste, qui me disait, c'est marrant, t'as un côté philanthrope. Ouais. Donc, je dis pas ça pour... Mais c'est vrai qu'en fait, moi, comme j'ai une vision, long terme de ouf, je cherche pas à faire de coups. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, avec mes artistes, j'ai des deals très transparents. Mmh. Ils savent exactement combien je gagne et on est dans un truc où, quand je vois un artiste, je me dis pas, et c'est pour ça que je me permets de faire du développement. C'est-à-dire qu'en gros, on fait le premier contrat de l'artiste. Et nous, en gros, on a une rémunération par rapport à son succès. Mmh. Donc, on se permet de faire des artistes au début en se disant, vas-y, je vais peut-être pas gagner beaucoup sur ton premier album. Peut-être que sur ton deuxième, ton troisième, je vais réussir à créer une commis sur la durée.
T'es pas là pour faire un hold-up, en fait.
C'est ça. Et j'ai pas besoin de ça parce que je suis dans un truc où, ça fait déjà 4 ans que j'ai créé ma boîte, ça fait genre, 7 ans que je bosse dans la musique. Mmh. Et je vois qu'on est en progression constante. Donc, en fait, il suffit que je continue dans ce modèle-là de se dire, on a le temps.
Ouais.
Et on a le temps, mais en même temps, tu vois, on est passé de, j'étais tout seul en 2018, on va être 10 là à la fin de l'année. Donc, tu vois, c'est comme un truc qu'on développe bien quand même. Mmh. Et donc, du coup, ça se passe super bien, ça va déjà super vite. Donc, ça sert à rien d'essayer de braquer ou de faire des coups court terme, ça sert à rien.
Mais en vrai, tu vois, là, c'était sur le ton de la blague.
Oui,
mais
bien
sûr. On va discuter, un peu quand même parfois de, j'imagine qu'il peut y avoir une tension entre l'artistique et le financier de temps en temps, tu vois.
Ouais.
Il va falloir qu'on
surtout
en discute.
Surtout dans le rap, j'imagine que.
Ouais. En tout cas, l'idée de cette émission, si tu veux bien, c'est d'essayer de comprendre un peu le business du rap de manière générale, et même de se demander s'il est une forme d'avant-garde dans l'industrie musicale, est-ce qu'il y a des pratiques propres en fait au milieu de l'urbain, etc. Parce que cette agence, vous la présentez justement comme spécialisée dans la musique, dans la musique urbaine. On pourrait même s'interroger pour commencer sur le terme urbain d'ailleurs. Mais bon, à la limite, il faudrait une émission, je crois.
À la base, c'était écrit rap, mais depuis que je bosse avec Wajden, j'ai mis
c'est
musique
vrai
urbaine.
Tu pourrais mettre groove.
Musique groove.
C'est dur, ça. Bah, j'avais juste, avant de commencer, rentrer dans le dur, tu vois.
Ouais, vas-y.
Je trouve que la démarche que tu as eue, elle est quand même assez intéressante parce que tu as contacté le label d'un mec que tu kiffais.
Ouais.
Et est-ce que. Parce que généralement, on dit toujours qu'on est déçu par ses idoles quand on les connaît, tu vois, surtout dans le rap et tout, t'as toujours ce côté de je veux pas être fan ou en
est-ce
tout cas
qu'il
je veux
est
pas...
sympa, Médine.
Non, ouais, non, mais pour de vrai, est-ce,
non,
que,
est-ce que
ça fit avec l'image que tu te faisais, justement?
De fou. C'est-à-dire quand, bon, déjà, moi, j'ai un truc où je fais toujours très gaffe au côté, je montre pas les gens que je kiffe ou quoi, tu vois, par exemple, quand moi, je postulais Médine, ils disent, tiens, il a postulé peut-être parmi d'autres, mais moi, c'était chez eux que je voulais aller, tu vois.
Ouais.
Et effectivement, c'était ma première expérience, donc j'aurais pu être déçu. Et Medine, c'est un bête de mec. Et tu vois, genre, j'ai commencé à bosser avec lui et Salsa en 2015. On est en 2017. Je continue à bosser avec eux. J'étais avec eux il y a 3 jours. Enfin, tu vois, il y a un truc où.
On est même en 2022.
On est même en 2022.
2022, ouais. Ça va trop vite, ça. Ça va trop vite, là.
Ta perception du temps
complètement chamboulée. Mais ouais, c'est un super mec. Et je pense que c'est aussi ça qu'a joué. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne équipe au début.
Ouais, c'est ça.
Et qui ont des valeurs qui sont dans mes mêmes valeurs. C'est pour ça aussi que j'ai postulé chez eux.
Mmh.
Et du coup, ça fait que je pense que ça m'a mis dans un bon mood. Tout comme je pense que les gens qui rejoignent ma boîte, là, tous les mecs qui bossent pour moi et qui bossent avec moi au quotidien, ils arrivent dans un bon mood puisque c'est, et du coup, eux, ils continuent dans ce truc-là. Ils disent, OK, bah, c'est ça, le bosser dans le rap. Donc, du coup, ils gardent ce truc-là. Et même quand ils vont bosser dans d'autres boîtes après, je pense qu'ils gardent ce truc-là. Donc, je pense que je suis très bien tombé. Et après, je suis très bien trouvé parce que justement, j'avais l'impression qu'ils étaient comme ça,
ouais,
à travers leur musique.
T'as
tu vois.
T'as pas été surpris et...
Non, du tout.
Ça, c'est bien, tu vois, c'est un formidable message, ça aussi.
Non, non, c'est. Et franchement, je pense que ça a beaucoup joué. Je me suis jamais posé la question, mais maintenant qu'on en parle, oui, je pense que ça a joué. Okay. Je serais tombé sur des requins, peut-être que je serais devenu un vrai requin.
C'est possible. On est le produit de son environnement.
Exactement.
Après, bon, en tout cas, tu vas nous aider à essayer de comprendre un peu les arcanes, voilà, de l'industrie musicale, notamment dans le milieu rap. Ce que je vous propose, c'est qu'on divise un peu l'émission en deux parties qui reprennent en fait un peu vos activités justement, okay, à travers 135, à savoir une activité plus orientée business, comme vous le dites, et une autre plus communication.
Ouais.
Et en fait, on entend par business tout ce qui est gérer absolument tous les intermédiaires quand on souhaite faire une carrière, ouais, signer des contrats, etc.
Ça.
Donc on va commencer avec le business justement. Essayons d'être pédagogue, tout le monde ne maîtrise pas forcément ces questions. En tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on souhaite faire une carrière dans la musique, on a des interlocuteurs différents, des gens qui nous accompagnent, etc. De nombreux intermédiaires. Et si je comprends bien, vous, un peu, l'idée, c'est d'accompagner justement les artistes et les labels dans la gestion d'une carrière et du contact avec tous ces intermédiaires. Si on doit dégager de grands axes d'action autour du business, ça serait lesquels? Tu peux...
Ce que nous, on fait?
Ouais.
En fait, c'est simple. Quand un artiste vient nous voir ou quand un producteur vient nous voir, déjà, on lui explique l'écosystème du business. Parce qu'il est très compliqué.
Okay.
Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc déjà, on commence par bien lui expliquer. Parce que finalement, c'est impossible de comprendre l'extérieur. C'est-à-dire que, sauf si t'as fait une école là-dedans, et en vrai, la plupart des artistes, ils n'ont pas fait d'école là-dedans, tu vois. C'est un truc, t'es un artiste, t'es devenu naturellement. Et les entourages non plus, parce que c'est vraiment, c'est très compliqué à comprendre. Donc, on commence déjà par poser les bases. C'est quoi les éditions? C'est quoi le label? C'est quoi ça, etc. Donc, déjà, on explique les bases.
Ouais.
Puis après, on va rentrer dans un truc, on va dire, OK. Par exemple, en label, à un moment, il faut que tu signes avec un label. Soit en distribution, soit en artiste. On va dire, c'est les deux opposés.
Tu peux juste rapidement, la différence entre tout ça?
Ouais, bah, en fait, quand tu vas avoir, on va dire, si on veut parler de ces deux gros contrats, la distribution, c'est toi, tu produis ta musique de A à Z, t'es indépendant. Ouais. Et tu vas avoir un label dont le travail va être de prendre ta musique, le mettre sur les plateformes, en magasin, et de faire une avance financière.
Mmh.
Donc, tu fais tout seul. Et à l'inverse, si jamais t'es en artiste, ils font tout, et toi, tu chantes.
Donc en fait, c'est la grande différence, c'est que tu n'es pas producteur et donc la possession des masters, la musique en tant que telle, t'appartient ou pas, et tu fais appel pour t'aider sur d'autres choses.
Ouais, c'est ça. En fait, quand t'es un artiste, ça t'appartient pas et surtout, c'est toi, tu fais juste le taf artistique. C'est-à-dire que tu vas avoir un DA avec toi, un chef de projet, un mec pour le marketing, un mec pour l'admin, un mec qui va mettre l'argent. Tu mets pas d'argent quand t'es un artiste. C'est-à-dire qu'en gros, on dit oui, les contrats d'artiste, tu touches pas beaucoup d'argent, non, parce que tu touches que du bénéfice en vrai. C'est-à-dire que tu prends une part de chiffre d'affaires que toi tu prends.
Il y a pas de risque.
Tu dépenses rien. En fait. Tu dépenses rien du tout. Que quand par exemple, typiquement demain. Si tu prends 50 000 euros d'avance en artiste, on va dire en distrib, t'aurais pris peut-être 400 000. On me dit, ouais, 400 000, c'est beaucoup plus, sauf que 400 000, 50 000, si tu le prends dans ta poche, tu vas investir dans... Tu vas, bon, tu vas acheter un appart toujours avec 50 000 balles, mais tu vas commencer à investir, payer ton loyer, etc. Tu l'utilises que pour toi. Que si on te file 400 000 balles, bah avec ces 400 000 balles, tu vas payer les ingé sons, le studio,
ouais, les sessions,
le marketing,
ouais,
tu vas tout payer de A à Z, et peut-être qu'à la fin, ta part de bénéfice, elle sera inférieure à 50 000 balles. Donc c'est... et ça, on l'explique. On l'explique en disant, voilà, il y a plein de contrats qui existent. Quel est l'avantage, quel est l'inconvénient de ces contrats? Pour que on enlève un peu les préjugés. C'est-à-dire que le mec qui dit, ouais, contrat artiste, c'est de la merde. Je dis, j'ai négocié un seul contrat d'artiste avec tous les artistes que j'ai bossé. Donc effectivement, c'est rarement le deal le plus adapté. Mais il y a des cas où c'est intéressant. Et à l'inverse, les distrib, ouais, distrib, c'est trop bien. Joule, PNL, ils sont en distrib, ça tue. Joule, PNL, ils sont en distrib. Mais ils ont pas aussi le même volume que toi. Donc aujourd'hui, Joule PNL, s'ils veulent un contrat distrib, ils vont voir n'importe quel mec, ils prennent 5 millions d'euros, ils investissent 1 million d'euros dans le projet, gardent 4 millions pour eux. Toi, si t'arrives et tu dis je veux mettre 1 million dans le projet, on va dire ok, bah peut-être que tu peux te faire 30 000 euros d'avance. Les 970 000 euros qui manquent, si t'en as vraiment besoin, il faut que tu trouves autrement. Donc tu vois, nous, le truc, c'est déjà se dire il y a aucune vérité. C'est-à-dire qu'en gros,
oui, ça dépend
de chaque personne. Ouais. Et une fois qu'on explique ça, on lui explique les différentes choses qui existent. Genre, t'as ça, avantages, inconvénients de chacun. Et après, le mec, il va me dire ok, bah moi, de ce que j'ai compris, donc il va me demander aussi un peu mon avis, moi et mon équipe, hein, parce que je suis pas tout seul à faire, en disant ok, de ce que j'ai compris, moi je me sens prêt à faire une distrib. Ou non, j'ai besoin d'un peu d'aide, j'aimerais avoir une coproduction. Et dans ces cas-là, il va me dire qu'est-ce que t'en penses. Je vais dire bah je pense que t'as le bon raisonnement ou pas. Et après, je vais dire écoute, maintenant qu'on a ciblé le contrat, on va cibler le partenaire qui va t'offrir ce type de contrat.
Donc ça, c'est un peu la deuxième étape. Premier grand axe, informer. Ouais. Ensuite, choisir le bon acteur, quoi.
Et on va dire informer, choisir le bon schéma, puis le bon acteur.
Okay.
Et donc ça, c'est ce qu'on fait. Et choisir le bon acteur. Nous, ce qu'on fait, c'est que on a l'avantage de bosser avec beaucoup d'artistes qui ont du succès. Donc du coup, on est connecté à tous les labels.
Vous êtes connus.
Exactement. Indépendant ou major. Et donc du coup, on les appelle en disant voilà, j'ai ce jeune artiste qui tue parce qu'on bosse sur le cas d'exercice qu'on aime bien. On a ce luxe-là de choisir des artistes qu'on aime la musique, qu'on a besoin de les écouter pour bosser avec eux. Et donc du coup, je veux dire voilà, il y a lui qui est en train d'arriver. On cherche ce type de contrat. Est-ce que t'es chaud pour le rencontrer? Je fais ça avec 2-3 labels, histoire d'avoir aussi quand même une concurrence, une compétition qui fait qu'ils vont se démener pour proposer les meilleures conditions. Et après, on accompagne les artistes, on va voir le label avec eux, tac tac, ça discute, ils font une proposition, on reçoit la proposition, on dit à l'artiste, regarde, ça veut dire ça. On pourrait négocier sur ça, qu'est-ce que tu veux favoriser? Tu veux plutôt avoir un taux le plus élevé possible, une durée la plus courte, une avance la plus élevée? Tu choisis, tu peux pas forcément tout négocier.
Mais est-ce que les artistes maintenant, les jeunes qui se lancent, ils arrivent vraiment en mode ultra naïf sur le biz ou ils essaient de se rencarder un petit peu et tu peux avoir des...
T'es étonné, toi, en général, du savoir ou à l'inverse, du manque de connaissances des artistes avec qui tu discutes?
Que je me dis maintenant que le marché est ce qu'il est, tu vois, je sais que à mon grand âge, nous, les mecs qui arrivaient, c'était vraiment full freestyle, tu vois. Il y avait même pas de calcul, les gars, ils savaient même pas s'ils allaient faire une carrière ou pas. J'imagine qu'aujourd'hui, un mec qui se lance, qui fait la démarche de chercher justement à se faire représenter, c'est qu'il a déjà une idée derrière la tête.
Alors, il y a deux éléments. C'est que aujourd'hui, il y a une conscience que c'est important.
Mmh. Oui, voilà.
Ça, c'est important. Maintenant, le deuxième élément, c'est qu'en général, il y a une conscience que c'est important, mais les infos sont tellement difficiles d'accès que les gens maîtrisent pas, ou alors les trucs qu'ils maîtrisent parce qu'ils ont entendu une phrase dans un morceau de rap qui en général est fausse. Donc du coup, ça fait exemple concret, tous les rappeurs disent Massacem. Il y a plein de rappeurs avec qui moi j'ai bossé qui disent Massacem alors qu'ils ont jamais, ils ont pas encore été inscrits à Massacem. C'est qu'ils parlent de leur royalties en tant qu'interprète. Donc tu vois, tout est mélangé. Et effectivement, le truc qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours en communication, les gens viennent nous voir. En business en général, c'est nous qui allons les voir parce qu'on a déjà parce que les mecs, il y a trop de gens qui viennent nous voir en business, donc du coup, mais les gros, ceux avec qui on bosse, la plupart du temps, c'est nous qui les avons contactés ou on nous les a ramenés. On a beaucoup de gens qui kiffent notre taf et qui disent à son pote, vas-y, va le voir. Donc en général, quand ils viennent nous voir, tout de suite, ils ont conscience de ce besoin-là, parce qu'ils se disent, ok, quand on leur explique ce qu'on fait, ils disent, bah exactement ce que je voulais, parce que moi, j'ai conscience que c'est important de signer mon contrat, mais j'arrive pas à avoir d'infos. Et les seuls qui me donnent les infos, c'est les labels que je vais voir qui me disent, c'est ça l'information. Donc du coup, on n'a pas vraiment de difficulté à bosser avec des mecs. Parce que quand on leur explique notre business model, nous, comment on gagne de l'argent, qu'on a un intéressement à leur succès, donc ils disent, OK, bah, il va aller dans mon sens.
Ouais.
Que selon le type de contrat, on a le même intéressement. Donc ils vont se dire, il va pas favoriser un contrat qui l'intéresse. Mmh. Et du coup, assez facilement, comme ils ont conscience que c'est important, ils vont y arriver. Après, ils ont, comme tu me disais, est-ce que je suis étonné de leur connaissance? Je suis agréablement surpris de leur envie de comprendre.
Okay.
Mais je suis quand même un peu attristé, entre guillemets, du peu d'informations qu'ils ont réussi à glaner, parce que malheureusement, c'est tellement dur, il y a tellement pas de sources, que c'est normal qu'ils les aient pas, et ça me fait un peu chier de savoir qu'ils peuvent pas les avoir.
À notre humble niveau, et je sais que vous le faites aussi, parce que vous créez un peu de contenu aussi pour essayer d'informer, et nous, dans ce podcast, quand on parle un peu d'industrie, etc., on n'est pas des professionnels, mais on donne les premières clés, en tout cas, pour comprendre un peu cet univers, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, et je suis d'accord avec toi que c'est important.
Mais c'est dur, parce que tu vois ce que tu dis, c'est que par exemple, ton podcast, typiquement, c'est un contenu qui va avoir plus tendance à toucher les artistes qui sont
un contenu long, un peu de gens qui ont l'habitude du monde musical, etc. C'est vrai.
Et même moi, à mon échelle, je fais un truc qui s'appelle Rabil, c'est des émissions de 10 minutes, face cam, où j'essaie d'expliquer des concepts de l'industrie, et même ça, j'essaie de le faire le plus mainstream possible, et ça reste spé. Et limite, les contenus business qui marchent le mieux, je vais donner un exemple concret, Bouscapé, avec qui je travaille, on fait un contenu qui s'appelle Passe à table, où t'as Lacrim un moment qui parle de business. Donc, c'est pas toujours ultra juste ou ultra précis.
Mais le fait que ça soit incarné par un artiste.
Incarné par Lacrim, ça a eu un succès fou. Ouais. Et les gens, quand ils viennent me voir en rendez-vous, ils peuvent me parler de ça. Ouais. Lacrim, il l'avait dit dans cette émission-là. C'est que la difficulté, c'est pour faire, on peut avoir le bon message, mais pas être le bon messager. Et comme on a un aspect un peu spé, bah, typiquement, on va avoir tendance à toucher les artistes qui sont déjà dans une démarche. Donc, heureusement, ouais, c'est cool parce que au moins eux, ils ont plus d'informations. Mais maintenant, moi, mon combat, je bosse beaucoup avec d'artistes que moi, je vais rap street, on va dire. Mm-hmm. Et donc, mon combat, c'est comment je vais réussir à expliquer à distance à ces gars-là. Parce que quand ils viennent me voir, c'est fluide. On parle, on discute. Ouais. Tout est fluide. Mais est-ce qu'ils vont réussir à tomber sur mon contenu? Donc, j'essaye par des exemples, par des formats courts. Mais en vrai de vrai, je touche plus facilement ceux qui sont déjà dans cette logique d'apprentissage, qui ont l'habitude de chercher, etc. Et le but, c'est d'aller toucher ces gens-là qui veulent savoir, mais qui ont moins les réflexes de chercher. Mmh.
Dis-moi, le fait de faire cet intermédiaire, vous, quand vous accompagnez un artiste, mine de rien, ça exige une forme de confiance de la part de l'artiste envers vous, de la transparence, etc. Mmh. C'est facile à établir ce type de relation parce que je pense que beaucoup d'artistes ont peur, en fait, tout simplement, de donner leur confiance et de se faire avoir, notamment au niveau financier, ou même parce que c'est un engagement important, quoi.
De fou. Il y a trois éléments qui nous aident. On a énormément de confiance de la part de nos artistes. Parce qu'en vrai, on gère leur argent, en vrai. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu négocies le contrat du mec, tu laisses passer une clause de merde, ou tu fais en sorte qu'il ait un contrat nul parce que toi, tu gagnes de l'argent derrière, tu le tues, en vrai. Ouais. Il y a trois éléments qui nous aident. Déjà, comme on a une grosse logique de pédagogie, on a l'habitude d'expliquer, donc le mec, quand tu lui expliques bien, qu'il comprend de quoi tu lui parles, ça crée de la confiance. Mmh. Deuxième élément, on a beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le pote d'un pote qui a dit va le voir, donc
ouais,
effectivement, c'est des recommandations. Ouais. Donc le mec, il arrive en terrain conquis, entre guillemets. Mmh. Et le troisième élément, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'il voit les mecs avec qui on bosse. Il voit qu'on bosse pour eux ce qu'on leur apporte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ils viennent nous voir pour un contrat. En général, on en négocie d'autres derrière, mais on n'a aucun engagement. Mmh. Et même quand je commence à parler pour eux, j'ai même pas de contrat avec eux. Je leur dis, écoute, je vais te trouver le contrat qu'il te faut, je vais te faire rencontrer les gens. Si le contrat te convient pas, tu pars, moi j'ai rien. Je te demande rien, je te fais rien signer. Et je suis pas dans, et comme on n'est pas dans une logique de dire, vas-y, signe vite un truc, etc., on dit, vas-y, viens, on va bosser ensemble, on va t'expliquer, on va rencontrer des gens ensemble. Et donc, du coup, ils sont pas oppressés, ils sont pas dans un truc
prisonnier,
de, ouais, tu vois, ouais. Ils se disent, si jamais, s'ils se voient que nous, on le force pas, on le presse pas, il se dit, en vrai, si vraiment il voulait me la mettre, il aurait essayé de me faire signer un truc à un moment, tu vois. On n'est pas là-dedans. Il y a plus de chances que eux, ils me la mettent en disant, vas-y, au dernier moment, ah, ce contrat, il me plaît, je me barre avec sans te payer. Ouais. Ce qui est peu probable, parce que du coup, on a des relations avec les labels à qui on les présente. Mais ouais, la confiance est essentielle. Et je suis très content parce qu'en vrai, on a la confiance des gens avec qui on bosse.
Et est-ce que, vous avez des artistes, que vous prenez sous votre aile? Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est ça que vous faites concrètement.
Ouais, on va dire, ouais.
Est-ce que vous faites, plus que, parce que là, on parlait de la partie business, mais est-ce que sur l'artistique aussi, vous dites, ouais, tu devrais faire ci, faire ça, peut-être changer de style de musique, changer de, tu vois, est-ce que vous avez vraiment une...
Et même dans la même continuité, parce que vous n'êtes pas un label non plus.
Non, pas du tout.
Comment on divise les rôles? Ouais. Ça, justement, l'artistique, on pourrait se dire, c'est le label, enfin, je sais pas,
ou est-ce que quand même, si vous signez un gars, enfin, si vous aidez un gars à signer un label pour un contrat d'artiste.
Ouais.
Le label, lui, il a toute l'attitude après à dire, alors, ok, c'est cool ce que tu faisais quand t'étais en train de te filmer dans ton bâtiment, mais nous, on préférait que tu fasses comme ça, tu vois. Est-ce que le type, du coup, à ce moment-là, il peut encore revenir vous voir vous en disant, ouais, le label, il aimerait bien que je fasse ci, je fasse ça, est-ce qu'il y a moyen que vous intercédiez, histoire de dire, non, mais voilà, pour comprendre un peu la démarche artistique des mecs.
Il y a plusieurs questions dans vos questions.
Ouais.
La première, c'est, on fait le service après-vente constamment.
Ok.
Et mais ça fait simplement qu'il est rarement sur l'artistique. Pourquoi? Parce que déjà on fait aucun contrat d'artiste quasiment. Mm-hmm. Et en plus de ça, même les contrats d'artistes aujourd'hui sont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins d'impact dans la musique du mec. C'est-à-dire que le mec il dit je veux faire ça, il fera ça.
Ah ouais, il y a pas de.
Ça joue, mais c'est beaucoup moins dirigé, on va dire, qu'à une époque.
Ok. Nous à l'ancienne justement c'était ça, c'était tu signes en label. Les mecs, en fait, ils peuvent dénaturer ta musique, changer ton image.
En fait, pourquoi beaucoup moins maintenant? Parce qu'en général, quand tu signes un mec, c'est que la proposition qu'il a artistique est déjà beaucoup plus développée. Pourquoi nous, on donne pas tant de conseils artistiques? On peut donner un avis. C'est une tu reviens avec quel single? Est-ce que tu penses pas à tac? Mais en vrai, nous, les mecs qu'on va voir, c'est qu'on dit, tiens, ils ont déjà un univers artistique qui nous plaît.
Ouais, d'accord.
Ils sont déjà sur deux. Donc, en vrai, quand un label le signe, il sait à quoi s'attendre. Et au-delà de ça, la plupart des contrats qu'ils vont avoir, c'est de la distrib. Mm-hmm. Donc, en vrai de vrai, le label n'a rien à dire. Mm-hmm. Donc, en vrai, ce problème artistique n'existe plus vraiment.
Okay.
Dans le sens où les labels, les méchants labels, comme ça a pu arriver, et comme ça peut encore arriver, c'est plutôt dans d'autres genres artistiques que le rap. Le rap, en vrai, quand tu signes un mec, il a une proposition, tu sais déjà, alors après, tu peux le conseiller, etc., etc., etc. Mais c'est des problématiques que nous, on n'a jamais eues.
Donc ça, c'est une première différence, parce que l'idée aussi de ce podcast, c'est de voir qu'est-ce qui est propre au business ouais. rap. Et tu penses, toi, qu'effectivement, le côté mainmise artistique de la part d'une grosse structure, c'est un peu moins important dans le
ouais.
rap?
Bah déjà, parce qu'il y a très peu de contrats qui s'y prêtent. Ouais. En vrai, comme je vous disais, que ce soit en licence ou en distrib, qui sont... En fait, dans le rap, t'as quasiment que des contrats de licence ou de distrib. Ouais. Tu peux avoir des contrats de coprod. Les contrats de coprod, c'est-à-dire c'est le label indépendant et la maison de disque qui vont s'associer pour produire un artiste. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est-à-dire que le label indépendant, en général, c'est les producteurs indés du mec, donc du coup, ils restent dans la boue. Donc en gros, en studio, t'as le DA et trois lascars à côté qui, ouais. du coup, si lui, il va aller dans une direction et qu'ils sont pas d'accord, ils vont devoir se parler et prendre une décision commune. Ouais. Donc finalement, et les contrats d'artistes, vraiment, dans le rap, contrats d'artistes, on parle plutôt dans un label majeur, parce qu'en général, on se dit c'est plutôt le label majeur qui va essayer de modifier la musique plutôt ouais. que le label indépendant. Ouais. Contrat d'artiste dans le rap, avec un label major, c'est très, 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 très minoritaire. Mais genre, c'est, genre, quand ça arrive, c'est, waouh, ils ont réussi à avoir un contrat d'artiste. C'est genre, ça n'arrive jamais, quoi.
Concrètement, quand tu arrives avec un artiste ou son label, auprès d'une major ou autre, d'ailleurs, ou un autre acteur, ça peut être un distributeur, parce que j'imagine ouais. que vous faites du lien avec des distributeurs ouais. aussi, etc.
Parce qu'en fait, moi, je mets les distributeurs dans les majors. Ouais, en fait, ouais. parce que sinon, c'est qu'on puisse faire les choses, mais en vrai, oui, on va voir des labels, quoi.
Parce qu'il y a des distributeurs indépendants ouais. aussi. Bref. Comment ça se passe très concrètement? C'est on prend rendez-vous, et si tu peux même t'appuyer sur l'exemple d'un des artistes que vous représentez, ça peut être intéressant. Je sais pas si donner les chiffres, c'est pas forcément important, mais au moins, tu vois, comment ça se passe? L'artiste dit, moi, j'ai envie d'être lié avec telle structure, vous l'avez proposé, etc. Comment ça s'organise ensuite? On prend rendez-vous, on envoie des mails.
C'est très simple. Donc, on a fait ce travail d'explication de ce qu'est business ouais. la musique, et on a identifié le type de contrat qu'il veut. Ouais. Nous, derrière, on lui dit, écoute, ces types de contrats, ils sont proposés par genre 15 labels. Ouais. Sur ces 15 labels, moi, je te conseille qu'on envoie 3. Donc, je vais t'envoyer une liste de 10. Je lui dis, je veux dire, chacun force inconvénient. Ce que moi, j'aurais été choisir à ta place. Il regarde. Il dit, OK, sur les 5, c'est 3 là que je veux. Moi, j'appelle les mecs, WhatsApp. Ouais, salut, tac, je vois cet artiste. J'envoie un lien. Je lui dis, est-ce que ça te parle? Tu veux qu'on se voit? Donc, en général, soit on va dans le label, soit on les fait venir chez nous, dans nos locaux. On aime bien faire ça aussi, puisque ça permet que l'artiste, il n'y ait pas la brillance du lieu, qui peut ouais. aussi avoir un impact dans ouais. le truc. Donc, les mecs sont à l'aise, ils sont chez nous.
C'est fait pour, d'ailleurs, en général.
Oui, c'est fait pour. Donc, du coup, nous, on kick ça direct, tu vois. Et donc, c'est simple. Le DA, il arrive. En général, ils arrivent à 2 ou 3. Ils voient l'équipe, ça se check, ça discute. Ils se présentent. Voilà. Moi, je bosse dans ce label-là. Notre label, il fait ça. On a, c'est ça, notre différence, etc. Et dis-moi, voilà, de ta musique, de ce que j'ai écouté. Parce que des fois, les labels avaient déjà contacté l'artiste. Donc, du coup, nous, on reprend la discussion, tu vois. Et du coup, il dit, voilà, moi, ta musique, elle me plaît par rapport à ça. Toi, tu veux aller où? Donc, l'artiste, il dit, moi, ma vision, c'est ça, j'aimerais faire ça, et j'aimerais faire ça. Il dit, OK, t'as besoin de quoi? Ben, moi, tu vois, là-dessus, j'ai besoin un peu plus d'aide sur ça. Donc, chacun dit un peu, le label dit ce qu'il peut apporter. Et demande à l'artiste, en gros, de quoi t'as besoin. L'artiste, il dit, voilà, moi, ce que j'aime faire et de quoi j'ai besoin. Et après, ça sert la main. Et puis, au moment de partir, le mec, il dit toujours, vas-y, je te rappelle Florent pour le business. Tout simplement. Et le mec, après, il m'appelle, il me dit, vas-y, j'ai vu mon boss. Ou si c'est pas le boss, il dit, j'ai appelé mon boss. Et il me dit, vous voulez combien? En gros, c'est quoi la base de départ du deal? Je lui dis, écoute, on voudrait discuter à partir de ça. Dis-moi ce que
j'imagine que ça t'es déjà vu en amont avec l'artiste.
Avec l'artiste, on discute. En vrai, l'artiste, il sait pas les montants. Donc, il vient me voir en me disant, parce que tu peux pas savoir ce que tu veux quand t'as pas l'habitude de faire des deals, tu vois. Donc, il va me dire, tu penses en gros, on peut espérer combien? Je dis, je pense qu'aujourd'hui, tu devrais plutôt t'attendre à ça. Donc, il me dit, est-ce que ça te vient? Est-ce que ça ne va pas? Ouais, ça me va. Ou j'aurais voulu un peu plus. En général, il voulait un peu plus. et donc, du coup.
C'est quoi cette question?
Et du coup, je dis au mec, nous, on est prêt, on voudrait ça. On est prêt à faire ça en échange. Vas-y. Et puis après, le mec, il m'envoie une propale. Il m'envoie la propale. Je l'envoie à l'artiste dans le groupe WhatsApp qu'on a avec lui. Nous, on fait genre des commentaires écrits sur la propale. Tu vois, genre en jaune, tiens, ça veut dire ça. Et je leur dis, vous avez kiffé qui? Je dis, calculez pas trop la propale. Parce que la propale, en vrai, elle va, à la fin des fins, les propales, elles vont toutes se ressembler. T'as un delta peut-être de 15%.
Ouais.
15-20%.
Parce qu'il y a les prix du marché, entre guillemets.
C'est ça. Et en vrai, vous êtes deux. En fait, en vrai, les mecs sont pas fous. Quand ils donnent, les labels, en vrai, ils donnent quand même par rapport à ce qu'ils comptent avoir. Et comme ils ont tous les mêmes données de base et un peu les mêmes coups de cœur, en vrai, à la fin, tout le monde donne plus ou moins les mêmes choses.
C'est assez homogène, ouais.
C'est ça. Donc, du coup, je leur dis, les gars, calculez pas trop la propale que vous venez de recevoir. Dites-vous plutôt dans le rendez-vous qui vous avez kiffé. Ouais, c'est celui qu'on a kiffé. Donc, du coup, moi, je rappelle le mec, je dis, vas-y, on a bien aimé. En général, je commence déjà à négo. Mais on a bien aimé, mais ta propale là-dessus, t'étais un peu timide. Mais si tu fais ça, est-ce que tu peux me laisser avoir une option? Ah, je sais pas s'il veut une option. Donc, tu vois, on discute. Travail de marchand de tapis habituel, tu vois. Et, une fois qu'on a une propale un peu plus concrète, donc, imaginons, on avait vu 3 personnes. Ou 4, moi j'aime pas multiplier. Au début, je faisais beaucoup plus de rendez-vous, maintenant j'arrête, tu vois. Parce que ça fait plus stresser qu'autre chose. Du coup, tu poses beaucoup de questions. Parce que comme c'est un choix difficile, plus t'as d'options, plus. Et puis surtout, ça prend du temps, parce que si t'en as vu un, le temps que fasse ta réponse, donc t'attends la réponse de l'un pour répondre à l'autre, donc à la fin, tu mets 4 mois à négocier un truc que tu peux faire en 2 semaines, tu vois. Et donc, du coup, je lui dis, vas-y, c'est qui ceux que t'as préféré? Il me dit, ouais, c'est ces deux-là. Vas-y, viens, on les revoit. Donc, on les revoit. Des fois, ça va être en studio. Des fois, ça, tu vois, genre, on a une discussion vraiment plus de qu'est-ce qui se passe si on bosse ensemble, parce que maintenant, on sait ce que l'un il veut, on sait ce que l'autre il veut, on sait ce que l'autre est prêt à mettre. Donc, en gros, la discussion business a disparu.
Ouais. Donc là,
moi, je la continue, mais eux, ils sont un truc de, ouais, on parle artistique, ou pas forcément artistique. C'est artistique parce que même s'ils font pas la DA, ils ont besoin de savoir ta vision, etc.
Voilà. Donc, les pieds, ouais.
Exactement. On parle carrière. On parle carrière, volonté, envie, rêve, entre guillemets, tu vois, parce qu'en vrai, c'est ce que tu rêves faire. Et donc, les mecs discutent. Moi, je finalise les propales. Donc, en général, on continue à négocier en parallèle pour qu'on perd pas de temps, tu vois. Et à la toute fin, je vais voir les mecs en disant, bon, bah, les gars, on a ces deux propales-là. Elles sont sous plus ou moins équivalentes à la fin. Je dis, maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Et bon courage. Et du coup, l'avantage, c'est qu'ils sont souvent plusieurs producteurs, artistes, etc. Donc, ils se débattent ensemble. De mon avis, je le donne pas trop, parce que je dis, en vrai, les gars, c'est deux très belles propositions. Problème de riche, entre guillemets. Mm-hmm. Maintenant, choisis. C'est à toi de prendre ta responsabilité, choisis. Et après, on appelle, on signe le contrat et c'est parti.
Mais okay. ça arrive que une fois que t'as fait les présentations entre les artistes qui sont venus te voir et les labels,
ouais.
que le label ils essaient de te chanter en contactant directement l'artiste.
Jamais.
Non. Donc il y a vraiment cette relation de confiance aussi ouais. entre ta boîte
ouais.
et les labels.
Ouais.
Ok.
Et pourquoi ils le font pas?
Parce qu'ils savent que sinon ils se ferment une porte pour plus tard.
Voilà, ouais. exactement. Ils se ferment une porte pour plus tard et ils risquent aussi limite de perdre l'artiste parce que l'artiste a trouvé ça chelou. Parce qu'en fait, nous, on a une relation avec les mecs. On les a vus, après, pas beaucoup plus qu'eux, parce qu'en général, tu vois, on voit les artistes, 2 semaines plus tard, on enchaîne sur des rendez-vous.
Ouais, hein. c'est ça.
Mais en 2 semaines, on a commencé à créer un truc, et du coup, t'essaies de passer derrière, c'est bizarre. Et surtout, maintenant, la réalité, c'est que plus on avance, plus on fait de deals, plus on devient,
ouais,
tu vois, en gros,
c'est incontournable.
Ouais. Donc, incontournable, c'est un beau mot, tu vois, mais en tout cas, plus on a un rapport de force. Alors, on sera jamais aussi fort qu'une major, mais on a un rapport de force de.
Ouais, vous traitez d'égal à égal, en fait.
Voilà, on va dire, ça sert à nous niquer. Parce que, en fait, et puis, il y a une réalité, c'est que c'est, entre guillemets, un peu facile. La musique, aujourd'hui, le pouvoir, c'est celui qui a l'artiste. Donc, nous, quand on est dans une logique de négociation et que nous, on vient avec l'artiste, le risque qu'il y a, c'est que si jamais on présente plus aucun artiste derrière, bah, potentiellement, tu vas perdre des artistes, alors que juste, on aurait bossé correctement, il y aurait pas de soucis. Et en plus de ça, on prend pas des montants délirants. Donc, le mec qui passe en direct ou pas, s'il va avoir un contrat mieux négocié. Donc, on va dire, le label, il peut se dire, ouais, j'aurais préféré négocier en direct un contrat de merde. Mais en vrai, on n'a pas ce problème-là. Et puis, ça se peut, il y en a, ça les fait chier, mais il nous fait pas ressentir, tu vois.
C'est un pourcentage que vous prenez, vous?
Ouais, on prend un pourcentage.
Ok. Comment ça se... J'aimerais bien savoir, quand tu estimes, entre guillemets, le coût d'un artiste, comment ça se passe? Est-ce que, quels sont les facteurs qui vont être pris en compte? Est-ce que, je sais pas, ça peut être le nombre de streams, le nombre de followers sur les réseaux? Qu'est-ce qui va être pris en compte? Et surtout, sans citer de nom, c'est quelle somme à peu près? Est-ce que ça peut aller du simple au double, du majeur? Enfin, tu vois?
Bah oui, tu peux aller de. Parce qu'en fait, là, je veux dire des montants qui sont quand même pour les artistes un minimum développé, qui ont du buzz, qui ont des vues, qui ont du stream.
Ok.
Je pense que l'année dernière, enfin, ou cette année, je sais plus trop les dates, il y a un rapport de 1 à 20 entre mon plus petit et mon plus gros contrat.
Ok.
Et encore, j'aurais dû en faire un qui aurait dû avoir un rapport limite de 1 à 50, tu vois. et comment on estime? En fait, on n'estime pas par rapport à ce que l'artiste il a besoin pour produire sa musique, on estime par rapport à ce qu'il peut rapporter. Ouais. Et comment on estime ce qu'il peut rapporter? C'est très aléatoire. T'as des éléments concrets qui sont le nombre de streams qu'il fait actuellement, et au-delà du nombre de streams, c'est plutôt l'évolution. C'est-à-dire qu'en gros, combien il a fait stream entre... Combien il était il y a 3 mois, combien il est aujourd'hui?
Parce qu'il y a une dynamique.
Faut qu'il y ait une dynamique. C'est la dynamique qui dicte tout. Au-delà des dynamiques, il y a d'autres éléments qui sont importants. Par exemple, est-ce qu'il a un gros feat qui arrive? Alors, est-ce qu'il a un gros feat? Est-ce qu'il a ça qui va arriver? Et après, il y a un autre élément, c'est quelle attraction il a de la part du marché, des maisons de disques. C'est-à-dire que typiquement, il y a un artiste où il peut y avoir un emballement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des artistes où il y a un emballement qui n'est pas forcément justifié. Parce que...
C'est un emballement quoi? Médiatique?
Non,
du milieu, tout
du
simplement.
Milieu, okay. Les pros. Ils se disent, tiens, on croit à lui. Et puis lui aussi, il y croit. Donc lui aussi, il y croit. Donc en fait, c'est un truc de... Ça peut partir, tu vois. Dans des proportions, tu vois, genre, tu vas pas prendre 1 million d'euros, tu sors de nulle part, tu prends pas 1 million d'euros, tu vois. Mais potentiellement, un artiste qui, entre guillemets, c'est quand même, après, c'est surtout sur les petits montants qu'il y a les emballements, parce que du coup, ça fait tout de suite gros, mais en valeur absolue, c'est, en valeur relative, c'est gros, parce que tu fais x3, mais en valeur absolue,
c'est. La prise de risque est pas si importante.
Est pas si importante, pardon. Okay. Tu vois, ça a été un artiste qui, en gros, vaut 50 000 euros, et parce qu'un énorme emballement, ça peut monter à 150, okay. en distrib. Alors, 150, tu dis, putain, ils ont fait un x3, les mecs. Mais en vrai de vrai, c'est oui, c'est ça, c'est en gros, c'est un grand emballement. Mais en général, ces mecs-là, ils finissent par les recouper. Ouais. Parce qu'il y a un truc où l'emballement, il est toujours un peu justifié.
Ouais. Sauf certains cas qui sont un peu des... On va pas donner de nom non plus, mais c'est vrai qu'on a vu des rappeurs qui faisaient des freestyles sur Facebook qui ont eu un buzz incroyable alors qu'ils ont jamais fait un refrain dans leur morceau,
ouais.
les mecs, tu vois.
Et... Mais en général, je bosse pas avec eux.
Ouais.
Donc, okay. J'ai pas trop ces cas-là.
D'accord.
parce que c'est pas forcément des mecs que je kiffe, que ouais. j'écoute de ouf, tu vois. Ouais. Et j'ai souvent sur des mecs où, en gros, moi, est-ce que je me tue déjà à eux? Ouais. Est-ce que mes équipes se tuent à eux? Parce que maintenant, je commence à vieillir, donc tu vois, il y a des trucs que je vais plus écouter, tu vois.
Temps, ils commencent à vieillir.
Nous, notre deal, notre promesse, après, on n'y arrive pas toujours, mais ce qu'on essaie de se dire, c'est que plus on va réussir à miser sur les bons, plus on va avoir des conditions facilement avec les maisons de disques et les distributeurs indépendants et tous les acteurs.
Parce oui, parce qu'il y aura un truc
sorte disent, de cachet, ouais. tu vois. Ouais. Donc, du coup, on se pose la question de est-ce que le mec va réussir à perdurer? Alors, c'est trop dur aujourd'hui. Le plus dur, c'est ça. C'est pas d'avoir un artiste qui pète sur un album. C'est d'avoir un artiste qui pète sur le deuxième, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais on essaye au maximum de faire ça. Il y a des mecs, tu vois, où récemment, j'étais avec mon gars avec qui je bosse en partie business qui s'appelle Gabriel, tu vois. Et on se dit, vas-y, lui, je kiffe, toi aussi, ouais. Il dit, mais après, tu sais, on se regarde, on se dit, est-ce que tu penses qu'avec la vague drill actuellement, lui, il va réussir à survivre à ça, tu vois? Est-ce que, parce que lui, il faisait de la drill, est-ce que ce mec-là va réussir à dépasser cette mode? Et on s'est dit, vas-y, ça va être compliqué, donc du coup, on n'y est pas allé, tu vois.
Mais du coup, ce que tu disais, c'est que vous approchez ou êtes approché par des mecs qui ont déjà un pied dedans, c'est-à-dire qu'ils ont un buzz, ils ont des trucs qui tournent, etc. Est-ce que ça vous arrive d'aller voir des gars qui sont chauds, que vous trouvez chauds, mais qui ont zéro exposition, qui...
Non, parce que ça ne signe pas.
Ouais.
Parce que je ne trouve pas de deal, en fait. D'accord. Et il n'y a rien de pire que d'aller voir un artiste et se dire, j'ai trouvé un deal et pas trouvé de deal.
Ouais.
Aujourd'hui, et c'est ce que les artistes ont du mal à comprendre, les labels, donc quand je dis label, on va parler de tout, distributeur, maison disque, ce que tu veux. Les labels, ils ont l'embarras du choix. Il y a des dizaines de milliers d'artistes qui publient déjà des choses et qui sont talentueux. Donc si tu as le choix entre prendre un risque financier, tu vas le prendre sur quoi? Sur un mec qui a déjà fait des choses, qui a une communauté. Après, on parle pas de millions de vues, mais un mec qui a déjà sorti 5 clips, qui fait peut-être 50 000, 70 000 vues, qui a genre 5 000 abonnés sur Insta, qui fait déjà des streams. Est-ce que tu vas prendre ce mec-là, qui est talentueux, ou le même mec qui est talentueux aussi, mais qui a jamais rien fait? À un moment, quitte à, si t'es prêt, même vous, je vous dis, tiens, demain, est-ce que tu mets 10 000 euros sur lui ou sur lui?
Forcément, oui.
Dans une perspective d'investissement, évidemment, qui prend là où t'es
Et surtout, parce qu'on dirait, ouais, mais du coup, ils signent des mecs qu'ils aiment pas. Non, parce que dans les mecs qui ont déjà développé, il y en a qui sont trop bien, tu vois, qui sont trop forts. Et c'est pas parce que le mec a rien fait qu'il est plus fort, tu vois, au contraire. C'est-à-dire que t'as l'embarras du choix de mecs bons que t'aimes et qu'on a déjà fait quelque chose. Donc pourquoi tu vas t'embêter à faire autre chose?
On dit souvent qu'effectivement l'un des grands switch qui a notamment, en fait c'est souvent la technique d'ailleurs qui est derrière ça, c'est à savoir que depuis le développement de la MAO, chacun très facilement à la maison, au home studio, il est capable de produire un projet crédible et de le mettre à disposition du public et donc des pros en fait.
Ouais, exactement.
Est-ce que tu penses que ce dont tu parles, à savoir que aujourd'hui l'industrie attend uniquement quasiment ses profils, le développement d'artistes plus qui part plus de zéro entre guillemets, se fait de plus en plus rare, ce qui d'ailleurs peut-être parfois un défaut, à mon sens. Est-ce que c'est valable principalement dans le rap ou c'est globalement dans toute l'industrie?
Alors, il faut savoir que aujourd'hui, le développement, c'est pas de passer de, on va dire, de zéro stream à 5 millions de streams. Le développement, c'est de passer de 100 000 streams à 5 millions de streams. Donc, tu vois, en vrai, aller prendre un mec qui a 5 000 abonnés et qui fait 50 000 vues, c'est du développement. Parce que c'est aujourd'hui, entre guillemets, facile d'accéder à 50 000 vues et 100 000 streams. Entre guillemets facile. Mais le nombre d'artistes qu'ils font, c'est énorme. Le nombre de mecs pas signés qui font ces chiffres-là, c'est énorme. Donc maintenant, le combat, c'est pas... Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu fais 100 000 streams et 100 000 vues sur un clip, tu génères 500 euros de chiffre d'affaires. Avec ça, tu payes pas la prod, tu payes rien, tu vois. Donc aujourd'hui, dire ouais, c'était déjà en développement. C'est juste que maintenant, les niveaux minimum de développement, avec la possibilité que tu peux tout faire toi-même, sont beaucoup plus élevés. Mais tu ne génères rien. Tu ne génères rien. Le mec qui va te développer et dire, OK, on va essayer de faire du chiffre d'affaires avec toi, il faut qu'il arrive à faire son x10, x15, x20 pour réussir à créer une économie, tu vois. Donc, du coup, il y a encore ce travail de développement. Sauf qu'il est démarré non plus. Mais disons, on faisait un 0 à 100. Avant, tu parlais de 0 à 100. Maintenant, tu parles de 5 à 100. Donc, il y a quand même 95% à faire, tu vois.
Ouais.
Après, ça a aussi un impact. C'est que quand t'es un label, quand tu vas voir un mec à 5 sur 100, tu lui donnes pas le même contrat qu'à 0 sur 100. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux aller voir un mec qui fait 100 000 streams et lui proposer un contrat de distrib ou un contrat de licence. Alors qu'avant, c'était un artiste, pas choix. Donc, tu vois, il y a quand même un truc où, pour les artistes, OK, tu dois faire le taf du début. Et en vrai, t'es le mieux placé pour le faire. Parce que, comme tout le monde peut essayer, c'est pas parce que t'es avec une maison de disque que tu vas mieux y arriver que les autres. Donc, au contraire, fais-le par toi-même. Par contre, grâce à ça, quand on va venir te voir, tu auras des conditions plus favorables que si t'es parti de zéro. Il y a des genres musicaux où c'est encore un peu le truc de partir de zéro. Notamment la variette, la pop, etc. Où en gros, dans la variette, tu fais 50 000 vues tout seul, t'es une rosta. Tous les labels se battent pour t'avoir. Que dans le rap, tu fais 500 000 vues, là on commence à se battre pour toi. C'est-à-dire que vraiment, si tu veux créer un mec qui arrive à faire... il faut que tu fasses peut-être deux fois d'affilée 500 000 vues ou trois fois d'affilée 500 000 vues, là il y a un truc de « waouh, faut y aller ». Mais un mec dans la variette qui fait 50 000 vues, là faut y aller, il est tout pareil
Comment tu l'expliques?
Comment je l'explique? C'est que dans la vraie, c'est tellement dur de réussir à faire 50 000 vues que tu peux être une future star si tu fais 50 000 vues. Que dans le rap, si tu fais 500 000 vues, tu peux être la future star. Alors, les deux ont une chance, parce que tu fais 500 000 vues, c'est pas pourtant que tu vas être une star demain. Mais on va dire que tu pars avec les mêmes chances qu'un mec qui fait 50 000 vues dans la vraie, tu vois.
Mais du coup, c'est à cause de la masse d'artistes et du fait que le public soit plus à l'écoute du rap en ce moment, ou c'est parce qu'aussi, il y a toujours cette histoire des streams trafiqués, des écoutes qui finalement veulent plus dire grand chose?
Non, parce que maintenant les mecs captent. C'est-à-dire qu'en gros, une maison de disque, elle peut savoir, même si t'es pas chez eux, si tu stream fake ou pas.
D'accord.
Donc en gros, le truc de la triche, il y a eu un impact à une époque, notamment sur les vues, hein. C'est des mois, il y a des mecs qui faisaient des millions de vues. Mais déjà, les mecs ont commencé, les gens qui regardent ont commencé à capter les ratios. Donc, non commentaire, like, tout ça, ça dit tout de suite si le mec il achète ou pas. Et en stream, pareil, ils ont les infos, tu vois. Donc c'est pas ça. C'est le fait que aujourd'hui c'est plus facile de faire 500 000 vues en rap que 50 000 vues en variette. Donc en gros c'est le même exploit. Donc en gros dans le rap réussir à faire on va dire 100 000 vues, c'est quand je dis c'est facile, faut relativiser. Mais pour rentrer dans le en gros le mec qui fait 100 000 vues en rap c'est bien, mais il y en a plein qui le font. Le mec qui fait 500 000 il a passé un step. Le mec dans la variété qui fait 50 000 vues, parce que dans la variété, c'est plus dur de faire des vues. Parce que
mais
public,
pourquoi c'est plus dur?
Parce que le public est moins actif sur ça, tu vois.
C'est moins jeune.
Moins jeune déjà.
Connecté,
il s'investit moins,
moins
il partage
nombreux,
moins,
moins sur les réseaux. Ouais. C'est moins viral, en fait. Les autres genres musicaux sont beaucoup moins viraux. Donc en gros, c'est équivalent, entre guillemets, tu vois. Genre,
je comprends. Là. Okay.
Et donc ce qui fait que si t'arrives à faire ça, t'es en train de monter, quoi. Et ce qui fait que moi, j'ai déjà bossé avec des artistes où effectivement, elles faisaient un nombre de vues qui était. Pour moi, dans le rap, que j'aurais trouvé ridicule, tu vois, ils ont des propositions et des gens intéressés par eux, c'était fou, tu vois, c'était fou. Ouais. Et dans la variété aussi, pourquoi il y a aussi plus de. La particularité par contre de la variété, c'est que ça coûte plus cher. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de contrats d'artistes, encore aujourd'hui, parce que quand tu veux sortir un album, tu mets beaucoup, beaucoup d'argent.
C'est-à-dire que le coût de production.
Ouais, tout est beaucoup plus cher.
Il te faut des musiciens, etc.
Il te faut des musiciens, il te faut des clips où tu fais des beaux clips, où tu as l'impression que, genre, tu sais, ils mettent 20 000 balles dans un clip où tu dis, bah, ils sont passés où les 20 000 balles? Dans le rap, à 2 000 balles, ils te font le même, tu vois.
Ouais.
Et donc, il y a ça, il y a le fait que les médias, dans la variété, ils sont essentiels. Tu dois passer par, ce festival, cette couve de presse, cet article, etc. Donc, ce qui fait que si t'as pas un accompagnement qui vient d'une grosse maison qui a les accès, c'est beaucoup plus dur.
Ouais.
Que dans le rap, tu peux percer sans jamais parler un jour à un média, tu vois.
Ouais. Ça vous arrive, du coup, pour revenir à la partie accompagnement, ça vous arrive d'être approché par des artistes et de leur dire, reviens dans 100 000 vues?
Ouais. C'est dur à dire, mais on leur dit, en fait, on leur dit, écoute, moi, mon taf, c'est de te chercher un contrat qui soit cool pour toi. Si je le cherche maintenant, soit je trouverai pas, soit je trouve un truc qui est pas cool.
Ok. Donc reviens dans.
Donc reviens quand ça sera le bon moment.
Ouais.
Et des fois ils reviendront pas. Et des fois ils reviennent. Et des fois les mecs me disent ouais justement mais c'est combien de vues je pourrais revenir. Je dis bah tu sais c'est pas uniquement les vues, c'est une dynamique globale. Mais vas-y en vrai si demain t'as 200 000 ça a plus de sens. Et y a des mecs des fois 3 mois après qui me disent c'est bon Flo j'ai 200 000 tu vois.
Non tu leur as mis la déterre.
Ouais. Mais il y a ce truc là effectivement. Nous il y a plein de mecs à qui on dit en fait on peut pas, ça sert à rien, on va chercher un contrat aujourd'hui. Allez, à rigueur, on va trouver une distrib chez Billy où tu vas prendre 3000 euros d'avance, mais avec ça, tu vas rien faire. Donc, en gros, signe pas maintenant, ça sert à rien. Donc, je vais pas, je vais faire perdre du temps et je vais perdre mon temps aussi, quoi, tu vois.
Dans votre roster, entre guillemets, dans les gens avec qui vous travaillez, il y a des beatmakers aussi. Des producteurs. Je pense à Amine Farsi.
Ouais.
Tu as le pull.
Flemme. Amine.
Ouais. Flemme. Thérapie aussi, je sais pas si c'est toujours le cas.
Thérapie, des membres du
Quatuor, en tout cas. Vous les travaillez de la même manière que des artistes interprètes, c'est la même
pas
chose.
Du tout. En gros,
c'est quoi la spécificité quand tu bosses avec ce genre de profil? En fait, beatmaker producteur.
Nous, on se positionne pas spécialement sur les compos. Ouais. En général, on le fait parce que genre c'est des plugs, des potes qui nous le présentent, etc. Donc sur les compos, pour le coup, notre taf, il est entre guillemets plus limité, il est purement business. C'est-à-dire qu'en gros, on va les voir, on leur explique les types de contrats. Mais bon, c'est beaucoup plus court, hein, parce que, en fait, eux, ils signent finalement qu'en édition. Il n'y a pas de notion de, en fait, quand t'es un artiste, faut que tu penses à la notion de label, enfin, master, édition, tournée, tu vas avoir aussi la question du merchandising. En général, un beatmaker, il a que les éditions. Donc le reste, il a qu'un seul contrat à négocier.
S'il faut penser, en fait, en termes de droits, il y a les droits d'auteur, les droits voisins, et c'est beaucoup plus limité quand t'es compositeur.
Ouais, quand t'es compositeur, t'es droits d'auteur. C'est tout. Et puis après, tu vends tes prods. Mais je veux dire, nous, le contrat que t'as à négocier, t'as un seul partenaire, c'est l'éditeur. Et en plus, des éditeurs, il y en a beaucoup moins. En vrai, t'en as 5 en France. En vrai, de gros éditeurs, on va dire.
Okay.
Que les labels, en fait, c'est par exemple un label, chez Universal, t'as 10 labels. Donc c'est, chez Warner, t'en as 4. Chez là, t'en as, enfin, ou 3, tu vois. Donc en gros, c'est-à-dire que du coup, tu peux signer dans 25 labels différents. En édition, t'en as 5, donc ça va vite. Donc du coup, on les rencontre, on leur explique un peu les types de contrats. On a 3. Full publishing, où dans ces cas-là, t'as ta part auteur, la part éditeur, la part chez un partenaire. co-édition, t'as ta part auteur plus la moitié de la part éditeur que tu partages avec un partenaire, et t'as ce qu'on appelle la gestion, c'est comme de la distrib, ils déposent tes morceaux à SACEM, ils prennent un pourcentage en échange. Donc c'est très facile, enfin c'est très facile à comprendre, et après nous derrière, c'est plus dur de signer, parce que comme il y a beaucoup de compositeurs et peu d'éditeurs, bah finalement c'est beaucoup plus dur de signer un artiste en édition qu'un artiste en label. Et du coup, nous, ce qu'on fait concrètement, en général, on les aide à monter leur boîte. On leur présente un comptable, un fiscaliste, parce que c'est des trucs qu'ils n'ont pas forcément. Et on les fait rencontrer les labels, les éditeurs, excusez-moi, les éditeurs, et on les aide à signer. Et une fois qu'ils ont signé, on a moins cette notion de suivi, parce qu'on prend un one-shot, on ne prend pas un truc sur la durée. Mais par contre, dès qu'ils ont une question business, ils nous appellent. Et ce qu'on essaie de faire aussi, on aime bien le faire, mais c'est un peu du bonus.
On bosse avec eux régulièrement.
On leur envoie des artistes.
Ouais, voilà.
C'est ça, mais ça, en vrai, parce que du coup, comme ils nous connaissent bien, ils accueillent bien les artistes. Et inversement, et nous, on gagne pas d'argent dedans, mais c'est vas-y, ça plug. Ah, et là, on le fait beaucoup, tu vois. Genre, comme tu disais, on a eu la chance de bosser avec Flem, avec Amine Farsi, avec Therapy. Et on bosse aussi avec un mec qui s'appelle Franklin, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un jeune compositeur qui est le meilleur ami de mon premier salarié, tu vois, à Milan. Et donc, du coup, pareil, on l'a fait. Là, pour le coup, on n'a pas vraiment gagné d'argent. Mais c'était cool de le faire, et lui maintenant il est signé chez un label, un éditeur qui s'appelle Blue Sky, en coédition avec Sony. Blue Sky c'est l'un des meilleurs éditeurs compositeurs, alors que c'est un indépendant le mec, tu vois, il s'appelle Sacha, très très chaud. Et du coup maintenant il se retrouve à bosser sur le morceau de Marocco, je sais pas si je veux le dire maintenant. Mais...
L'émission elle sera diffusée dans quelques semaines,
okay.
Tu peux y aller.
et donc du coup, on bosse les compositeurs comme ça quoi, c'est, on les fait signer, en général ils ont plus vraiment besoin de nous derrière. Mais si jamais, par exemple, je sais pas, ils ont une question sur vraiment leur contrat ou leur boîte, ils nous appellent et si on peut, on les plug.
On a pas mal parlé production, édition, distribution, mais là, tu viens de le dire, il y a aussi toute une partie un peu structuration, entrepreneuriale, etc. Là-dessus, vous faites quoi? Et je rajouterais même, est-ce que vous avez une activité aussi un peu autour du spectacle vivant, du tour, du concert, des choses comme ça ou pas?
Alors, on négocie des contrats de tournée.
Ouais.
Pour le coup, la tournée, pour nous, c'est vraiment le truc le moins rentable à négocier.
Okay.
Parce que l'économie de la tournée dans le rap, elle est pas ouf.
Pourquoi? C'est pas rentable de faire des tournées dans le rap de manière générale?
Ouais. Relativement.
Okay.
C'est-à-dire que relativement aux autres trucs, c'est pas rentable.
Parce qu'il manque les festivals?
Parce qu'il manque les festivals, parce que c'est beaucoup plus dur de remplir les salles, même sans rien de changer. Elle est pas rentable en développement. Nous, on fait beaucoup de développement en artiste. C'est-à-dire qu'il y a des artistes avec qui on bosse en stream peuvent très vite représenter une grosse économie. Mais là, en tournée, ça met plus de temps.
Mais est-ce que même les artistes qui vous approchent, ils ont en tête le fait de, à un moment donné, de rapper devant des salles, ou est-ce que c'est plutôt des artistes de studio et de clips et machin, et qui n'ont pas du tout en tête l'aspect défendre ta musique sur scène face à un public
En général, ils nous en parlent, en disant ouais, moi j'aimerais faire des concerts. Mais il n'y a pas non plus une appétence.
Il n'y a pas de démarche, voilà.
Il n'y a pas une démarche dès le début, de dire tiens, c'est quand même. Et puis aussi un truc, c'est que en vrai, on vient de se taper 2 ans de Covid.
Mmh.
Et nous, en vrai, on existe depuis 2018, donc c'est-à-dire que la moitié de notre activité était sous Covid. Donc en vrai, ça a changé pas mal de choses. Mais effectivement, dans le rap, t'as moins cette culture du concert.
Ce qui est paradoxal quand même, parce que à la base c'était ça.
C'est à moitié vrai. C'est historiquement, non, mais elle est là aussi, quand même, de la presta en tout cas, du freestyle, du public.
Parce que pendant des années, c'était trop dur de tourner. Donc là, c'est en train de revenir.
Mmh.
T'as des mecs qui annoncent des Bercy, c'est un truc de ouf. Toi, t'as Jossman, Dino, s'ils annoncent des Bercy. T'as Jaja Linas qui annonce un Bercy. T'as Laylo qui fait 2 Bercy d'affilée, enfin, tu vois. Et ça va avoir des répercussions. Parce que du coup, en plus, le rap s'adapte très vite. Donc je pense d'ici 1 an ou 2, ils vont tous se battre pour faire des concerts.
Okay.
Mmh. C'est juste le temps que ça s'adapte, tu vois.
D'accord, mais c'est quelque chose qui est pas forcément que les mecs ont pas en tête, parce qu'effectivement là aussi, si tu repars des cyphers, des freestyles, etc. Ok, les mecs qui, enfin, au début quand tu faisais du rap, c'est que tu savais qu'à un moment donné il allait falloir porter ta musique et la défendre pour juste en vivre,
mais t'as plus besoin,
et c'est ça en fait,
t'as plus besoin
maintenant en fait.
Enfin, il faut faire des tournées, hein. faut pas que je tronque le message. Les tournées, c'est important pour ton économie, c'est important pour rencontrer ton public, ça solidifie le tout, c'est essentiel. Mais c'est du plus long terme que les, en fait, dans ton arrivée, déjà, tu vas sortir un album, après tu vas réfléchir à tourner, tu vois. Donc par contre, c'est
pas quelque chose que t'as dès le départ.
Et puis c'est de la construction long terme. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai bossé au tout début avec Arca, c'est un des premiers gros artistes avec qui j'ai bossé, tu vois. C'était vraiment avec lui que j'ai lancé le truc, tu vois. Il y en avait d'autres avant, mais c'est lui qui était le plus gros à ce moment-là. On sort son album, on fait platine sur le premier album. Donc c'est un truc de ouf, tu vois. On fait 20 000 ventes première semaine, enfin des scores délirants. Et on lance une tournée des SMAC. On la cartonne. On la cartonne, mais en vrai de vrai, quand tu regardais l'économie à la fin, platine en master, en distrib versus tournée, en coprod, bah en fait, tu te dis, ouais, il va falloir qu'ils fassent, il va falloir attendre d'être sur les zéniths pour commencer à générer la même chose, tu vois.
D'accord.
Donc ça veut dire que, et puis et par contre, l'énergie qu'il a mis pour sa tournée, fait 60 dates en un an.
Ouais,
c'est chronophage. Ouais. Donc t'es dans un truc où, du coup, dans le calcul du rap, où il y a cette notion de
production aussi, de
production, de vitesse,
de sortir des trucs.
Et ben c'est compliqué.
Parce que la tournée, ça te met un coup d'arrêt.
Ça te met un coup d'arrêt direct, ça te prend du temps. Et puis surtout, il y a un truc qui est tout con. Mais moi, tu vois, tous les artistes avec qui je bosse, quand on signe une tournée, on a toujours le même problème. On l'a fait sur quel album? Parce qu'entre le moment où on la sort, le moment là, il y aura un autre album, un deuxième.
Ouais, genre. C'est ça. Ouais.
Ils ont moins le temps de le défendre.
C'est vrai que c'est pas toujours compatible avec le rythme imposé par les plateformes.
Exactement.
De sortie, de single, etc. Pas. Et c'est difficile quand t'es en tournée de faire ça.
C'est ça que je trouve intéressant, c'est que les plateformes, elles ont vraiment changé énormément de choses, aussi bien côté conso que bah du coup côté artiste et réel. Et moi, je me rappelle que justement, quand le marché des majors s'est effondré avec le streaming, le MP3, machin,
la crise
etc.
du disque, ouais.
Les gens disaient bah ouais, en fait, avant un artiste à la Johnny Hallyday, en fait, il pouvait vivre uniquement sur son album studio. Mmh. Maintenant, faut aller défendre ta musique. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu nous dis, bah, c'est même pas la peine encore aujourd'hui
dans
de
le
faire
rap.
Ça.
Dans le rap.
Dans le rap.
Non, en fait, je dis.
C'est que c'est pas rentable.
Non, en fait, voilà. C'est que, en fait, c'est une vision long terme. Ouais. Parce que du coup, tu vas gagner moins d'argent avec ta tournée que si tu faisais que du stream. Maintenant, si tu veux construire, si tu veux aussi, parce qu'en fait, c'est ça, on parlait d'édition à un moment. Quand tu, là, ça sème, donc c'est tous les revenus liés aux droits d'auteur. Mmh. Les droits d'auteur, c'est-à-dire que dès que tu vends un CD, dès que tu fais un stream, t'as une part de l'argent qui est envoyé à la SACEM que tu récupères si t'as écrit les morceaux. Dans le rap, tout le monde écrit ses morceaux, quasiment. Donc du coup, tu gagnes sur la SACEM aussi. Mmh. Sauf que le stream en SACEM, ça rapporte quasiment rien. Le CD, on n'en vend quasiment plus.
Dans le rap français, je
pense. Dans le rap français. le CD, on n'en vend quasiment plus. Le stream, ça rapporte de l'argent, mais ça rapporte très peu de SACEM. La part qui revient à l'éditeur est très faible. Mmh. Et donc, du coup, le seul moyen de faire la SACEM, c'est de faire de la radio ou de la tournée. La radio, si tu fais Skyrock, t'es content, mais la radio ou Skyrock, c'est pas ce qui apporte le plus d'argent en SACEM. C'est bien, mais c'est pas un truc de ouf. Faut aller taper Énergie, faut aller taper France Inter. Compliqué avec le rap.
Moins de place.
Donc, du coup, ce qui devient intéressant, c'est de développer la tournée, parce que ça va te permettre, justement, de vendre du merch, de défendre tes albums, etc. Mais la tournée, c'est beaucoup d'énergie, et c'est du temps long.
Ouais.
Là où dans le rap, c'est dans un truc de tac, 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 tu vois. Mais les artistes kiffent quand même, mais c'est juste que voilà. Quand tu viens d'arriver, quand c'est explosif comme ça, te dire ok, je fais une pause,
je fais un break pour faire ma tournée, ça va pas.
C'est compliqué. D'autant plus quand t'as pas la chance d'avoir les festivals, etc. Donc au début, tu galères.
Oui, parce qu'il faut préciser pour ceux qui connaissent un peu moins le sujet, c'est que le festival, c'est parmi ce qui est le plus rentable parce que la logistique, elle te revient pas en tant qu'artiste, en fait.
C'est ça.
Et donc t'es juste accueilli et en fait, tu prends de la billetterie facilement par rapport à si tu veux organiser toi-même et investir énormément dans la production du spectacle.
C'est ça.
Quoi.
En fait, le festival, ce qui est intéressant, c'est que tu reçois un cachet pour venir.
Et le cachet plus que billetterie.
Ouais, c'est parce qu'en fait, le billetterie, il touche pas. Mais tu prends un cachet pour venir. Ouais. Et en gros.
C'est que du bonus.
C'est que du, en fait, t'as quand même des coûts, mais ils sont plus faibles. Et surtout, si tu compares vendre une, genre, si tu compares quand, par exemple, tu fais une belle smack de 2000 personnes, on va dire, l'argent que tu vas toucher versus un festival où t'es un parmi d'autres, tu gagnes beaucoup plus d'argent pendant le festival. Donc t'as pas la pression de remplir, parce qu'en fait, c'est le festival qui remplit, c'est pas toi.
Ouais.
Et en plus de ça, tu viens en équipe réduite parce que ils ont tout géré, tac, tac. En général, t'as un setup plus petit que quand c'est ta tournée, ça dure moins longtemps, tu gagnes plus d'argent. Donc, les festivals, franchement, c'est bon plan, entre guillemets, tu vois. C'est le jackpot, c'est beaucoup moins long et ça s'adapte beaucoup plus à genre, si tu commences à avoir un engouement autour de toi, bah, direct, t'es pas obligé de soi de lancer ta tournée de 6 mois à l'avance. T'es annoncé le dernier moment dans le festival, en général, c'est plutôt, mais si t'as vraiment un buzz d'un coup, tu peux arriver là et tu gagnes plus d'argent. Et ça, ce qui d'ailleurs est un problème parce que les festivals ont un gros problème d'économie. C'est-à-dire que eux, en vrai, ils gagnent pas assez d'argent. Les festivals, la plupart sont en perte. Parce qu'il y a effectivement une montée des prix des artistes et du coup ils n'arrivent pas forcément à rentabiliser. Apparemment, les rares festivals qui arrivent à bien gérer de l'argent dans le rap notamment, c'est en Belgique où ils ont une vraie notion de gestion financière. Apparemment, ils sont beaucoup plus chauds que nous. La tournée, c'est pas forcément ma spécialité. Et donc du coup, ce qui fait que effectivement, si tu lances une tournée sans les festivals, c'est plus dur de gagner de l'argent. Et comme le rap, à part avant de devenir très gros, ne fait pas le festival, bah ça veut dire qu'en gros il va galérer. Mais c'est en train de changer aussi. Il y a de plus en plus de rap en festival, de plus en plus de développement en festival, c'est en train de changer. Ça va, je pense que cette discussion qu'on a là aujourd'hui, Dieu merci, dans 3 ans il n'existera plus, je pense.
D'accord.
À la limite, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est pour faire la transition vers la communication, c'est peut-être parler un peu de ce que tu fais avec Bouscapé.
Ouais,
parce que justement, on commence à être entre le business, en même temps comme c'est un média, la communication aussi. Concrètement, tu les accompagnes sur quoi actuellement? Ça évolue avec le temps?
Ouais, ça évolue avec le temps.
Ouais.
Donc déjà, si on parle de Bouscapé, je suis obligé de parler d'Amad à un moment, qui est mon coup de cœur professionnel.
Tu sais que moi, tous les gens que je rencontre du milieu, la personne qui revient comme l'une des plus agréables avec qui travailler, c'est Amad, très souvent.
Ouf. Amad et Salsa aussi. mais qui du coup est moins à l'image, donc les gens connaissent moins. Donc Salsa, c'est le mec qui du coup produit Made In et qui est maintenant un label chez Warner, un label de distribution, donc il est passé de l'indépendance à la major. Il bosse une structure de distribution qui a signé de très beaux artistes, puisqu'il a fait La Fève, Bébé Jacques, Mena Santana, Bouchy, enfin pas mal d'artistes qu'on a fait aussi ensemble. Et donc bref, pour parler d'Amad, donc j'ai la chance de bosser avec Amad depuis 2015 maintenant, qui à l'échelle de ma vie, ça fait un tiers de ma vie quasiment. et donc du coup, chez Bouscapé, je suis passé par beaucoup de postes, j'ai fait beaucoup de recrutements.
On précise d'ailleurs, pardon, parce qu'on l'a pas dit, mais Bouscapé, qui est un énorme média rap, mais qui même aujourd'hui est aussi gros que beaucoup de généralistes, en fait.
Ouais, exactement. Bouscapé, c'est, pour donner quelques chiffres, c'est 2 millions d'abonnés sur YouTube quasiment, c'est 2 millions 2 sur Insta, c'est 4 millions de visiteurs par mois sur le site, c'est 500 000 sur TikTok en un an, c'est 15 millions de vues en moyenne sur YouTube, enfin c'est gros. C'est très gros, et c'est aussi un des médias qui développe le plus l'endorsement, où en gros ils vont faire des contenus brandés avec des marques et des rappeurs.
Sujet très intéressant.
Et en gros, moi, quand je suis arrivé chez Bouscapé, le but, c'était de développer l'économie du média, qui était un projet très artisanal, qui était un média très puissant, mais l'économie ne suivait pas. Elle ne suit toujours pas, hein. On devrait générer beaucoup plus d'argent, mais au moins...
C'est un média en même temps. Hein,
un média, c'est très dur. Mais on a réussi à structurer les trucs en professionnalisant les choses et tout, donc c'est cool. Et du coup, moi, mon taf chez Bouscapé, dans un premier temps, ça a été de redéfinir un peu l'édito. Quand je dis « je », c'est avec l'équipe qui était là, et tout a été fait en collaboration, notamment avec Amad. Donc du coup, on a pris un virage social media, parce qu'avant, on faisait tout vers le site, donc social media, les réseaux sociaux sont devenus la marque en part entière, vidéo, on faisait peu de vidéos, on a développé plein de concepts, et brand. Parce que si on a des réseaux sociaux puissants et qu'on fait beaucoup de vidéos, on va pouvoir amener des marques. Donc ça a été beaucoup mon taf au début, donc trouver les équipes pour le faire, trouver les concepts pour les marques et trouver les concepts pour les contenus qu'on faisait. Donc au fur et à mesure, la boîte grossit, on était 6, on est 25, donc du coup forcément, en plus j'ai passé beaucoup moins de temps chez eux, j'ai commencé, je faisais 2 jours par semaine, maintenant je fais plus qu'un seul jour, ce qui est compliqué quand j'ai ma boîte à côté. Et du coup aujourd'hui, j'essaye un peu de... j'interviens en gros quand c'est la merde, en gros j'interviens quand il y a un truc à gérer que personne n'a le temps de le gérer, c'est ça. Ouais. Et j'essaie de développer des nouveaux trucs, constamment, dire vas-y c'est quoi le prochain truc. Donc par exemple on a lancé les podcasts, par exemple, on a lancé le stream, on produit des morceaux maintenant, les 1 son 1 heure, donc ça a été développer un nouveau business, négocier avec une maison de disque en disant un média va produire des morceaux de vos artistes. Donc ça, c'est galère à faire passer. Parce que on est dans une case, un média c'est censé faire la promo de nos artistes, et là on va en gros, vous allez prendre nos artistes pour gagner de l'argent. Donc tu vois, c'est des trucs où il faut réussir à expliquer. Donc le stream, les podcasts, là on est en train de développer, redéfinir notre offre commerciale. Donc tu vois, on a été chercher un directeur commercial qui s'appelle Johan. Donc ça a été recruter un directeur commercial. Donc voilà, je fais sujet après sujet. Là, par exemple, en édito, on est dans un truc, on dit, tiens, il faut renouveler un peu les émissions. Donc il y a toute une équipe qui bosse sur ça. Nous, on a un rédacteur en chef qui s'appelle Franck, qui bosse super bien. Et donc du coup, moi, de temps en temps, comme j'ai l'avantage d'être en recul par rapport à eux, c'est de venir les voir en disant, bah, les gars, moi, j'ai vu ça sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, ah bah tiens, nous on avait cette idée-là, bah vous pensez pas que ces 2 concepts-là, si vous les mettez ensemble, ça marche bien? En gros, je suis un consultant qui est là 1 fois par semaine, quoi.
Ouais. Tu vois, moi, ce qui m'interroge dans tout ça à chaque fois, c'est que... Et là, on bascule vraiment dans la partie communication, quoique, je sais pas, mais il y a une forme d'écosystème qui ressort quand même, en tout cas de lien entre toi, par exemple, ton activité, elle peut bénéficier en réalité d'une couverture médiatique. Et en même temps, tu bosses pour un média. Ouais. On sait aussi qu'il y a des grosses structures, des majors, etc., qui ont des parts dans des médias, etc. Ça crée tout ça...
Un mélange des genres
qui parfois peut interroger sur la place du média, de l'analyse, de son indépendance, sa capacité à critiquer, etc.
Carrément.
T'as un regard sur tout ça?
Ouais, j'ai un avis. Est-ce que j'ai un regard? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un avis. Déjà, me concernant, ouais. Puisqu'en vrai, aujourd'hui, je fais pas de RP dans ma boîte, à cause de ça. Je suis lié à Bouscapé, mais je suis aussi lié à Media Ventrap, et j'aide beaucoup de médias, fille des coups de main, etc., parce que c'est un truc qui me passionne, autant que la musique. Et donc du coup, moi par exemple, mais ça me protège. En vrai, je dis à mes artistes, hey, je bosse chez Bouscapé. Et encore, au début, les gens l'identifiaient bien, que maintenant, de moins en moins, on voit plus comme 135 que Bouscapé, tu vois.
Mmh. Ça peut être un atout aussi, j'imagine.
Ça peut être un atout.
Savoir que t'es connecté avec Bouscapé, qu'il y a une...
Mais c'est un truc que...
Pour le public, ça peut être...
Mais c'est un truc que j'essaye de... Que par exemple, moi, je leur dis direct, je parlerai pas de vous à Bouscapé.
Ouais.
Parce que sinon, c'est plus un bourbier qu'autre chose.
Bah
parce
ouais,
que les mecs, ils me disent tout le temps, pourquoi mon clip, il va sur Bouscapé? Et j'ai pas envie de faire la navette avec Amad en disant, ouais, s'il te plaît. Mets-les-moi sur Bouscapé. Donc en gros, j'arrive directement en disant hey, les gars, je parlerai pas à Bouscapé pour vous, ça sert à rien, vous avez des RP, vous avez ça, c'est bon, faire le taf. Pour répondre un peu à la question du conflit d'intérêt, alors oui, forcément, quand je kiffe un artiste et que j'en parle tous les jours à Amad en mode putain, il est trop chaud, lui, je suis en train de bosser sur lui, peut-être qu'à un moment ou un autre, ça va l'aider. Mais en vrai, si je kiffe un artiste, c'est aussi parce qu'il est chaud. Et donc, du coup, il y a de fortes chances que je parle aussi d'artistes avec qui je bosse pas. Mais il y a une question de conflit d'intérêt. Maintenant, le conflit d'intérêt entre les majors et les labels et les médias, il est effectivement beaucoup plus présent. Mm-hmm. Parce qu'ils mettent de l'argent. Et pas forcément au départ. Il y a très peu de médias dont les labels ont départ. Mm-hmm. Même s'ils essayent. On a eu des discussions avec des majors, mais qui, du coup, pour nous, n'ont pas la bonne vision. Parce que nous, on se voit comme un média global, un business model global, et eux, Dimitri, ils disent bah tiens, venez, on s'associe avec vous, en échange, on crée un label ensemble, ce qui ne marchera pas. Mmh. Donc effectivement, il y a une dépendance de la part des médias aux maisons de disques.
Ne serait-ce qu'en tant qu'annonceur.
En tant qu'annonceur. Mais le combat, c'est de la diminuer. Et nous, c'est ce qu'on arrive à faire maintenant.
Mais du coup, excuse-moi, je te coupe, mais si tu dis que Bouscapé aussi produisent maintenant des artistes.
Non, en fait, alors c'est la particularité, c'est qu'en fait, on a un concept qui s'appelle un son une heure, où un artiste vient faire un son en une heure.
Et ce son, vous voulez pouvoir l'utiliser derrière?
Et c'est nous qui produisons. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il vient juste faire un morceau, on produit un seul morceau, on n'intervient pas dans sa carrière d'artiste. En gros, c'est là, tu viens, comme si tu fais un Colors, et ce qui arrive d'ailleurs, que Colors le mette après sur la plateforme. Donc tu vois, c'est...
Oui, mais tu vois, Colors, généralement, c'est des sons que les artistes ont déjà fait eux, et refont chez eux.
Pas forcément.
Ah ouais?
Tu fais, c'est compliqué, ça dépend.
Réinterpréter.
En fait, c'est soit c'est réinterprété, soit c'est une exclue, c'est un peu selon la stratégie, tu vois.
D'accord.
Que nous, le concept, c'est comme le mec le crée sur place.
Ouais.
Du coup, forcément, en fait, pourquoi on le produit? Parce qu'en fait, c'est nous qui payons les beatmakers, le studio, tout.
C'est la définition d'un
producteur. Mais du coup, là, je me place côté audience, public. Ça veut dire que par rapport à un Bouscapé qui sort un son en une heure avec un artiste, je me dis, est-ce que du coup, cet artiste qui par ailleurs fait un son avec eux sera traité de manière aussi objective par rapport à ce qu'il va produire dans le futur? Est-ce que les mecs de Bouscapé, ils vont pas se dire, on va pas assassiner l'album de ce gars-là, on a fait un son avec lui?
Alors, oui, en fait, c'est un faux débat.
Parce que c'est l'inverse que ça se passe. C'est quand
déjà, en fait, on kiffe l'artiste, c'est pour ça qu'on le fait venir. Et puis surtout, en vrai, on va en faire un maximum. Donc en vrai, il y a des mecs dedans où peut-être après, on n'aimera pas ce qu'ils font. Mais pourquoi c'est un faux débat? Parce qu'en fait, on critique personne. C'est pas forcément mon choix. C'est pas forcément, et c'est une volonté d'ailleurs qu'Amad a de dire, venez, on va commencer à critiquer, parce que c'est un problème qu'on critique pas. Parce que, en vrai de vrai, on critique personne. Donc, que tu fasses le son en heure ou pas, tu seras pas critiqué.
Ah, il y a pas de critique sur.
Il y a pas de critique.
Non, mais de toute façon, soyons clairs.
Il y a pas de critique dans les médias, tout globalement.
Mais dans les médias rap en particulier.
En particulier, bien sûr.
Mais parce que, mais moi, je me disais peut-être parce qu'ils ont peur de se faire tabasser dans la rue. C'est une musique street.
Mais
non, tu vois.
Mais on est, c'était aussi la. Il faut qu'on parle aussi du rapport avec les marques, parce que tu dis qu'effectivement.
Viens, on va au bout des labels, parce que c'est une vraie discussion.
Bah oui, parle, vas-y, continue.
Non, mais en fait, parce que si on part sur les marques, on va encore faire.
T'as raison, vas-y.
Mais il n'y a pas de critique rap, parce que les artistes le prenaient. En fait, c'est un truc un peu historique. Les artistes pétaient un câble. Tu disais, ouais, est-ce qu'ils ont peur pour eux? Bah, il y avait un peu de ça, tu vois.
C'est ultra important.
Ouais, alors il y a plusieurs éléments.
Il n'y a pas de chronique.
Il y a quasiment aucune chronique sur les médias rap. Pas que Bouscapé, on parle vraiment de tous les médias. Et en plus de ça, ça fait les lecteurs cliquent pas. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui le font, ça marche pas.
Ouais.
Et donc il y a ce côté effectivement parce que les rappeurs sont ultra susceptibles. C'est un truc de ouf. Ils vont t'annuler les interviews, ils vont vouloir aller envoyer un DM au journaliste qui l'a écrit, tu vois.
Ouais. Et en vrai, ce rôle, c'est des youtubeurs qui l'ont pris, des influenceurs, des trucs comme ça.
Exactement. Et ils le font jusqu'à un certain point. Ouais. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, l'économie des médias est très dépendante des labels. Là où nous, alors, tu vas me dire, on est tombé dans une autre dépendance.
C'est ce que, oui, mais on en parlera après.
Mais si on dit concrètement les chiffres, quand je suis arrivé chez Bouscapé, je pense que 80%, voire 90% de notre économie était liée au label. Et 10% au revenu YouTube. Et aujourd'hui, on est peut-être plutôt aux alentours de 25. Okay. Pas parce que le label a diminué. On a réussi à faire augmenter aussi.
Parce qu'il y a d'autres gens, quoi.
Parce qu'il y a, il y a d'autres sources de revenus qui sont arrivées. Mais nous, on est une exception, entre guillemets, parce que je pense que les autres médias rap, notamment les médias Twitter, ont quasiment que les labels. Et ce qu'on essaie de faire, et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, venez, on va diversifier les sources de revenus. Donc, on a les marques, même si je sens que tu n'es pas forcément d'accord avec ça.
Je suis pas une question d'accord, mais oui.
Mais, et on va essayer de développer l'événementiel. On va essayer de développer, du merch, on va essayer de développer un maximum de sources de revenus pour que aucune source de revenus puisse trop peser chez nous. Mais un média, aujourd'hui, est toujours dépendant de là où il gagne son argent. Et on va prendre un exemple concret parce que je vais aller au bout du truc.
Ouais.
Aujourd'hui, Mediapart n'est pas indépendant parce qu'il appartient à ses lecteurs. Mediapart, si le fait que ses lecteurs mettent de l'argent pour lire ses contenus, ça fait qu'il fait du contenu qui sait qu'il va plaire à ses lecteurs.
Oui.
Donc en vrai, un média ne peut pas être indépendant. Mmh. C'est impossible.
Non, mais par contre, ce qui est faisable, en fait, c'est de se permettre un peu plus de liberté, tout simplement. Et d'être le pouvoir de l'argent lorsqu'il vient d'entreprise, il peut être potentiellement un peu plus limitant. Alors évidemment que toujours tu t'adresses à une audience, il faut essayer de la flatter, il faut essayer d'avoir des lecteurs, etc. Ouais. Ça a toujours été le jeu. Mais c'est pas la même chose quand c'est des entreprises, par exemple, tu vois, quand même à mon sens.
C'est le dilemme de la presse SP en général. Ouais. C'est-à-dire jusqu'à quel niveau tu peux être indépendant, c'est-à-dire te permettre d'être peut-être un peu dur sur qu'on parle de voiture, les mecs qui testent des bagnoles, le jour où ils disent cette Volkswagen elle est pas ouf, tu vois, toi je te prêterai plus de véhicule.
Et puis surtout, je pense qu'il faut intégrer dans le débat un élément quand même, c'est que dans beaucoup de médias il y a des journalistes.
Ouais.
Et que le journaliste a une déontologie, a des protégés aussi, etc. Et que mine de rien, ça ne suffit pas toujours, mais ça permet parfois de faire tampon. Cette déontologie, etc. Et il y a les syndicats de journalistes, etc. Faire tampon avec les pressions extérieures.
Je suis d'accord.
Ce qui est beaucoup moins présent dans les médias rap.
Je suis d'accord. Mais après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, les gars. C'est qu'en fait, on fait pas de critique parce que c'est un truc qui fait qu'on se dit, déjà, un, culturellement, c'est pas dans le milieu du rap. Ouais. Et deux, ça marche pas.
Ouais, oui,
et,
ça, c'est encore
et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a pas de critique lisse. Ouais. Parce qu'il y a pas de critique tout court. Tu vois? Donc, en fait, on a une sorte de débat sur ouais, vous mettez en avant plus ou moins. Enfin, tu vois, on peut dire encore, ok, peut-être qu'il y a des artistes dont on parle, dont on parle pas, et peut-être que grâce à l'argent, on parle plus d'autres que d'autres.
Ouais.
Mais par contre, il y a pas cette notion de critique. Mais ce qui est pour moi un problème, tu vois, parce que c'est pour ça qu'on a récemment bossé avec Chroniqueur Sale, qui maintenant fait la Chronique Sale ou la Minute Sale chez Bouscapé, je suis nul en nom et tout ça, et qui du coup, pour le coup, critique. Ça m'a d'abord demandé, il a dit, on critique personne. Bah viens, on va le faire venir, il va critiquer. Ouais. Et c'est Bouscapé qui le fait. Et si on est en vrai. Le milieu rap a tellement évolué que c'est plus facile de critiquer maintenant parce que maintenant les médias ont moins d'impact.
Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que donc moi je viens d'un monde que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais tu vois, à l'époque, et là je parle dans les 90s, quand sortait un album, t'avais toujours la chronique dans The Source, notamment, tu vois, qui notait sur 5 microphones. Et tu savais que un bon album, il avait 3,5, tu vois. Donc un album qui faisait 2,5, c'était chaud pour lui. Donc en fait, même si la critique c'était une brève, tu vois, mais à la fin tu finissais avec 2,5, bon bah tu comprenais que l'album était éclaté. Et en fait, je sais pas si ça existe encore ce truc-là, mais pour moi c'était, enfin la critique d'album à la sortie. Mais c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque il fallait mettre 20 balles pour acheter le CD.
Je pense qu'il y a ça, c'est qu'en gros avant tu te renseignais avant de l'acheter parce que effectivement c'est qui t'a mis 20 balles.
Coincé avec après
ça vaut le coup que là aujourd'hui tu le lances
si en ça vrai, te plaît pas tu le stream pas et c'est terminé.
Ou tu skips jusqu'à trouver le morceau qui te plaît et en fait aujourd'hui la critique elle vient d'où? C'est les réseaux sociaux. C'est que n'importe qui peut donner son avis. Donc finalement pourquoi ce journaliste là s'il donne son avis? En fait aujourd'hui les gens qui donnent leur avis c'est des gens lambda. Et ou alors c'est des micro-influenceurs, ou même c'est des journalistes qui le font en dehors du cadre de leur travail.
Sur leur temps libre.
Typiquement, prenons un exemple concret, Mehdi Maizi, qui fait des interviews, très très bon journaliste. On a voulu récupérer à Bouscapé à une époque. Il nous a répondu, vous avez tout le monde, je ne peux pas venir chez vous. Il faut laisser un peu d'espace à d'autres médias. Parce qu'au début, on faisait recrutement, on était vraiment très agressifs. Et du coup, par exemple, il fait le code chez Apple Music.
Ouais.
Il n'y a pas de critique dedans. Non. Par contre, à titre perso, il va dévoiler sa liste des 20 albums à écouter cette année et ça va créer une crise pour ceux qui ne sont pas dedans, tu vois.
Ouais.
Et encore, il ne critique pas d'album.
C'est une critique en creux.
C'est, en fait, c'est une critique en mode si tu n'es pas dedans, entre guillemets, tu te sens critiqué.
On comprend que tu es critiqué.
Mais il
n'y
a, Et je pense que oui, pourquoi c'est un trop petit milieu, parce que tout ça. Et puis aussi, j'ai l'impression que les gens, ils s'en foutent un peu.
Et peut-être aussi que le regard critique, ça se forge, ça s'exerce, etc. Et qu'il y a des cultures aussi qui poussent au regard critique plus que d'autres.
Ouais.
Et que, notamment, je pense, quand t'es une culture musicale, un genre musical, un mouvement, qui pendant très longtemps en a pris plein la gueule, t'es peut-être un peu moins à même d'avoir du recul et de critiquer les tiens, entre guillemets.
Non.
Ah, moi, je pense qu'il y a un peu de ça, honnêtement.
Mais non, puisque pendant 10 ans, 15 ans, c'était le cas, tu vois.
Mais à l'échelle du rap français.
À l'échelle du rap français, je pense pas. Parce que, par exemple, je lisais le bouquin de Driver, très bien d'ailleurs, qui s'appelait Si j'étais là, je crois, ou J'étais là. Ouais. Et il explique qu'à l'époque où il a sorti son album, il y a un
Driver, le.
Ouais. Aujourd'hui animateur et rappeur à l'époque.
Ouais, bien sûr. J'avais acheté son album d'ailleurs, tu vois. J'aurais aimé qu'il y ait une critique sur cet album.
Justement, il expliquait qu'il y avait une critique et que je sais plus quel journaliste, en gros, l'avait descendu. De ouf.
Ouais.
Et il disait, tous les autres albums qui étaient nuls, il disait que c'était bien et le mien, il descend. Il dit parce qu'en fait, comme j'étais le mec gentil, il s'est dit,
il va pas faire un sitting en bas.
Exactement. Figurez-vous qu'il explique dans son bouquin qu'il va péter la gueule après, tu vois. Et qu'il dit, en fait, on se permet de me critiquer parce que moi, je suis le mec gentil, et alors qu'en fait, c'était injuste dans ce qu'il mettait, et du coup, il l'a récupéré, il dit, ouais, je l'ai croisé à la génération, je lui ai tapé dessus, quoi.
Ouais. Et c'est là que je me dis, bon, il y a peut-être un souci, effectivement, avec les artistes qui sont un peu soupolés, tu vois, mais.
Ouais.
Mais, moi, l'album de Driver, je l'avais acheté. Mon cousin l'avait acheté, d'ailleurs. Je l'ai jamais rendu. Mais, je trouvais très bien produit. Mais c'est vrai que sur le fond c'était pas ouf, tu vois. J'espère que Driver va me péter la gueule. Mais
je pense qu'il s'est canalisé depuis.
La question aussi c'est est-ce que ton cousin écoute le podcast parce qu'il va venir te réclamer.
Non mais c'est vrai que moi en fait le côté parce que justement mon vécu fait que je tourne aussi un petit peu dans les milieux spé, tu vois, tech, etc. Mmh. Et on a le même problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné t'as une telle proximité entre les marques.
Ouais.
Et les rédactions de médias que il y a un genre de langue de bois.
Dans la tech c'est chaud, hein. C'est ultra chaud. Fric, je pense, donc
ouais. C'est ultra chaud. Moi je dis, enfin dans la tech c'est compliqué par exemple de dire ce smartphone de Samsung il est éclaté, tu vois, parce que tu sais que les mecs de Samsung derrière ils vont te courser. Mais pourquoi t'as dit ça?
Mais c'est partout pareil et malheureusement même quand il y a pas d'argent il y a d'autres moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu prends l'exemple des youtubeurs qui aiment bien critiquer. Et ben ce qui se passe au bout d'un moment c'est quand le youtubeur il commence à être un petit peu connu. Il a des opportunités. Pas d'argent, mais de trucs de tiens, est-ce que tu veux interviewer lui?
Ouais.
Tiens, est-ce que tu veux venir au concert? Et à ce moment-là, il va dire, oula, je commence à être un petit peu identifié.
Faut que je fasse attention.
Je veux.
Si tu vas pouvoir bénéficier de ça,
si je veux avoir accès à ça qu'il avait pas à la base, ouais. Parce qu'avant que quelqu'un le connaisse, tout le monde s'en foutait. Mais bah, tiens, si je veux avoir accès à ça, bah, peut-être que je vais faire un peu plus doucement. Ouais. Et je vais taper sur les mecs sur qui tout le monde tape. En fait, à un moment ou à un autre.
C'est ça qui est chaud, tu vois.
C'est dur. C'est super dur. C'est qu'en fait, à un moment ou à un autre, que ce soit de l'argent, de la visibilité ou quoi que ce soit, il y a un moment où, t'essaies de faire un choix et t'es toujours un peu touché. Par exemple, tu vois là, je regarde un youtubeur qui s'appelle Adam Ross qui parle vraiment de culture d'internet, etc., et de création de
qualité, ce qu'il fait
très chaud. Ouais. Et du coup, lui, il explique par exemple un truc tout con, mais il refuse les OP systématiquement parce qu'il se dit si jamais je fais des OP,
bah oui, ça va.
Je vais finir par changer mon truc.
Ouais.
Mais il dit, mais malgré ça, rien que les audiences, il dit rien que ça en fait, ça me travaille en fait. Rien que les audiences, ça influe mon contenu. Parce que même si j'essaye de me dire je m'en fous du nombre de vues.
Ouais, mais c'est pas le même maître.
Mais à la fin, t'as quand même un maître.
Ouais. Oui, mais c'est pas. Moi, c'est plus quel type de maître j'ai, tu vois.
Ouais.
Moi, je veux bien accepter de temps en temps être au service de quelqu'un.
Hein. Ouais, mais c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. C'est-à-dire, est-ce que je vais être victime de mon audience, victime des avantages en nature qui sont aller avoir cette sape, ce truc-là, etc., ou victime de quelqu'un qui me paye. Moi, quitte à avoir quelqu'un qui me maîtrise, autant qu'il me donne de l'argent.
Moi,
tu
je
vois.
Suis pas d'accord parce que mon allégeance.
Mais oui, mais parce qu'on a une. En fait, j'ai vraiment l'impression que les générations plus jeunes ont pas ce problème éthique que nous on peut avoir. Que alors toi déjà, pour moi t'es un jeune aussi, tu vois.
Mais est-ce que c'est pas un boomer dans son style?
Bah ouais, mais moi, du coup moi je suis un turbo boomer parce que en fait moi je vois le truc et je me dis waouh, mais c'est quelque chose qui aurait été impensable à mon époque à moi.
Ouais.
Tu vois, parce que il y a tellement de... mais la proximité aujourd'hui entre les artistes ou les médias et les marques, elle semble tellement naturelle que pour des mecs à l'ancienne, effectivement, on se dit mais putain, attends, est-ce que là il y a une vraie indépendance de point de vue ou est-ce qu'en fait il y a tellement de conflits d'intérêts qu'au final il y a pas un petit peu de langue
alors,
de bois
Déjà, je trouve ça intéressant ce que vous dites. Par exemple, moi je pense que c'est une question de avant d'être dans la musique, j'étais dans des trucs un peu plus genre libertaires, on appelle ça, genre soit des communautés internet où du coup il y avait on va dire anticapitaliste, mais tu vois, il y avait donc j'ai connu ce mouvement-là. Et puis, je suis arrivé dans la musique et je me suis dit, en fait, si on veut que les économies marchent, que les médias vivent, il faut de l'argent. Donc, ça m'a mis un regard plus pragmatique et plus cynique, on va dire. Mais moi, le truc de dire, à cause des marques, les artistes vont changer leur discours et tout, j'y crois pas. Je pense que quand ils vont faire l'OP avec la marque, ils vont faire gaffe. Par exemple, demain, nous, on avait fait, à l'époque, des freestyles sponsorisés par des marques. Et dans ce cas-là, fallait citer la marque, on mettait pas de gros mots. Mais, à côté, le rappeur pouvait dire n'importe quoi, on s'en foutait. C'est-à-dire qu'en gros.
Oui, c'est du spot, en fait.
C'est du spot. Il faut dire que c'est sur un instant donné. Tu vois, par exemple, nous, Bouscapé, on fait des OP avec des marques. Et, en vrai, de vrai, de vrai, ils nous font pas chier sur le contenu.
En fait, tu sais, moi, c'est pas tant ça, mon inquiétude. Je pense que c'est une question de rapport de force, d'ailleurs, en général.
Ouais.
Après, entre la marque et les médias, et qu'ils soient assez puissants pour pouvoir imposer quand même des choses et dire, on garde de l'identité, du discours, etc. Mais moi, ce qui m'embête plus, c'est de me dire que le public auditeur et récepteur de publicité deviennent presque la même personne. Et que jamais on rappelle, tu vois, que...
Ouais.
Attendez, les gars, rappelez-vous qu'on est ici pour vendre ce vêtement.
Ouais.
Tu vois, et que cette confusion, en fait, au moins de la clarté. Et je trouve que c'est rarement le cas.
Je suis d'accord. Mais ça, c'est c'est pas lié au rap ou pas lié à quoi que ce soit. C'est
non, qu'il y aujourd'hui. Au début d'un clip, il y a écrit publié rédactionnel.
Mais ouais. Grave.
Mais ce qui est censé être le cas. Hein. Ah ouais. Ce qui est censé être le cas quand tu mais fais grave. Quand tu fais une.
Parce un clip qui démarre avec tu sais un zoom sur un téléphone qui se met à sonner. Et tout, ouais.
Par exemple, tu vois sur YouTube quand tu fais une campagne publicitaire, t'es censé avoir cette vidéo.
Ouais, du contenu sponsorisé.
Sponsorisé. Et pour moi.
Mais tu dis pas lequel.
Tu dis pas lequel. Ouais. Mais en général, tu es censé le dire en commentaire. Ouais. Et puis en vrai, si tu sais pas qui c'est que la pub elle a pas marché. Hein. C'est, en gros, c'est à la fin de la vidéo, tu dis c'était qui a sponsorisé, c'était genre Apple ou c'était Pepsi. Si tu sais pas lequel des deux, c'est un peu relou. Et donc du coup, quand tu es censé le savoir. Mais pour moi, dans un clip, si jamais, et en plus, pour le coup, on placement de produit dans le rap, c'est crade. Hein. Parce qu'encore, les OP avec les marques, moi je trouve ça stylé quand genre t'as un vrai truc bien. Mais les clips, placement de produit dans les clips.
Ouais.
Il faut distinguer.
C'est pas fou. Hein.
C'est pas fou. Ouais. C'est genre à un moment, bah, réfé de Nino, tu vas avoir d'un coup une Xbox en plein milieu du clip. Et tu dis, mais où Winamax quand il sort son téléphone, et tu dis, bon, bah, ok, t'as capté de qui c'était. Mais ça, en vrai de vrai.
C'est pas joli.
C'est censé être écrit, c'est fait avec une marque. Mais encore ça, au moins, c'est visible. Parce qu'en vrai, quand tu vois Winamax, tu dis, tiens, il l'a pas fait. Tu vois, genre.
Tout le monde n'a pas ce recul, attention. Hein.
Ouais, mais est-ce que tu vois Winamax en plein milieu d'un clip de Nino? Je pense que tu le vois.
Tu dis que Nino kiffe Winamax et que toi aussi, t'as envie d'essayer Winamax.
Je pense pas. Ils sont quand même avertis, les jeunes. Mais après, je pense qu'effectivement, il y a un truc où maintenant c'est ancré, ça fait partie de ça, tu vois. Et c'est pas forcément positif, mais c'est pas forcément lié au rap, effectivement. Et ça, c'est beaucoup, je pense, la culture YouTube, influenceurs, qui sont beaucoup plus dedans d'ailleurs que les mecs dans le rap. En vrai, il y a moins d'OP. Et donc, quand il y a des OP, en général, c'est dédié plutôt à des gros artistes, il y a une vraie stratégie derrière, etc. Mais les trucs dans les autres, le pire, ça, c'est les influenceurs, etc. Et ça, mais après, j'ai l'impression que. C'est je suis d'accord que c'est un problème, mais je le lirai pas au rap. Je dirais
que
c'est global.
Mais est-ce que justement ce truc là est incontournable maintenant quand t'es un artiste rap, de se dire qu'à un moment donné il va falloir que tu fasses des OP comme si t'étais un influenceur, en fait?
Non, c'est un objectif de devenir une égérie de faire
c'est un objectif. Ouais. Tous les rappeurs voudraient.
Ouais.
Mais ça concerne une minorité de rappeurs, hein. Les rappeurs qui font des OP en vrai, qui font des OP sympas. Mmh. Franchement, je pense qu'il y en a 10 par an qui font un truc cool, hein. Ouais. Sur la centaine de rappeurs qui existent, tu vois. Mmh. Quand je dis un truc cool, c'est en termes d'argent, en termes de dispositifs, tu vois. Mmh. En vrai, il y a un acteur qui fait qu'il y a énormément d'OP dans le rap, mais qu'on les valorise pas forcément, c'est Foot Corner, qui est du coup un distributeur, une sorte de concurrent de Footlocker et de JD. Ouais. Ça a été créé par deux frères qui viennent de Roubaix. C'est une success story de fou. Biram, j'ai oublié le nom du frère. Et du coup, les mecs ont, en gros, sont Matrix, les marques de fringues Adidas, etc. Parce qu'ils parlent en gros, eux, leur slogan, c'est la rue habille la rue. Et pour le coup, ils parlent à la street de foot, tu vois. Et donc, eux, ils ont beaucoup d'OP où c'est genre, bah, tu viens, il y a un nouveau modèle d'Adidas, hop, quand ils font une photo, leur mettre sur leur réseau, tu gagnes un tout petit peu d'argent. Mmh. Mais ça, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'OP. Mais en vrai de vrai, les vraies OP un peu ambitieuses, qui, dans le rap, hors placement de produit. Ce placement de produit, c'est plus facile. C'est, tu fais un clip, tu dis, ouais, qui est prêt à mettre sa boisson gazeuse dégueulasse, et du coup, il y a un mec qui dit, oui, je suis prêt à le faire, tu vois. Ça, c'est un placement de produit, je mettrai à côté. Mais les vraies OP, genre, où il y a un dispositif, ça s'est créé avec la marque, etc. Dans le rap, c'est réservé au gros. Et en plus, c'est un peu toujours les mêmes qui prennent tout. C'est-à-dire qu'en gros, t'as Big Foley qui prennent la grosse partie du marché. Et pour le coup, ils sont trop chauds. Ils vont faire Axe, ils vont faire Lecoq Sportif, ils vont faire Célio. Franchement, c'est trop chaud. T'as SCH, parce que SCH est stylé, qui fait quasiment tout. T'as Esprit Noir qui prend tout le luxe. En gros, SCH, il prend tous les trucs un peu genre Adidas, tout ça. Enfin, je sais pas forcément si c'est Adidas, mais tu vois, les trucs un peu stylés. Esprit Noir, il rafle tout le luxe. Et puis après, il reste pas grand chose. Là, t'as Tiakola récemment qui est devenu égérie Nike, c'est une dinguerie, ça arrive super rarement. T'avais Niska et Aya qui avaient dévoilé, je crois, le maillot de l'équipe de France. Mais en vrai, de vrai, c'est peu.
Il y a eu du Lacoste aussi.
Ouais, il y a eu du Lacoste, alors risque et péril.
Ouais, avec moi. Ouais, mais ça a mal marché, ouais.
Mais c'est rare en vrai, parce que par rapport au nombre d'artistes, c'est rare. C'est beaucoup facile si c'était une meuf. Quand c'était une fille, tu vois, moi, j'ai la chance de bosser avec Weshden. On a fait un deal avec Shein. Alors bon, le fast fashion, tout ça, c'est pas forcément mon délire. Déjà, les fringues, globalement, c'est pas forcément mon délire, tu vois. Mais voilà, on a fait un deal avec Shein, qui pour le coup est exactement la cible de Weshden, c'est-à-dire des gamines en vrai, qui ont entre 12 et on va dire 30 ans, parce qu'en vrai, même les plus âgés.
J'allais dire 12-16, mais ok.
C'est en vrai, Shein, c'est genre, c'est abusé. Moi, j'y connaissais rien, j'ai découvert ça pendant le confinement, j'ai pété ma tête.
C'est monstrueux à tous les niveaux.
C'est monstrueux, exactement à tous les niveaux. Je crois qu'ils ont fait une étude de à quoi correspond Shein dans l'émission de CO2 des américaines, c'est un truc de fou.
De toute façon, le textile, je crois que c'est même largement supérieur au transport.
Ah bah oui, c'est fou. Et donc, du coup, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, une Weshden, on a bossé avec Garnier, on a bossé avec Shein, on a bossé avec Là, on fait un truc avec Rox, qui sera sorti à mon avis au moment de la vidéo. On a fait des trucs avec Reebok. On a fait une quantité d'OP à des montants plus intéressants qu'un mec. Et qu'un mec à même échelle. Parce qu'en gros, si
mais, c'est, mais c'est du spot à chaque fois où il y a des contrats. Parce que tu vois, encore une fois, mec à l'ancienne, moi je me rappellerai toujours de Arsenic, qui était en Lacoste des pieds à la tête sans jamais avoir été sponsor Lacoste de leur vie. Donc quand eux, tu les voyais, tu savais que c'était eux qui avaient payé le truc et surtout que c'était une marque qui kiffait vraiment, tu vois. Est-ce que c'est ce truc-là qu'ils cherchaient aujourd'hui quand tu vois un mec qui met des survêtements Nike, est-ce que l'audience se dit ah ouais, je sais pas, Kobalade, il adore Nike, tu vois, ou est-ce qu'ils ont le recul et la maturité finalement de se dire Kobalade, il est en Nike là parce que c'est une OP avec eux, mais
en vrai tu sais qui est qui, parce que aujourd'hui les par exemple, il y a peu de marques qui font du sponsor sur la durée. En vrai, Nike le fait quasiment pas.
Là, ils vont sur l'événementiel, ils font
sur l'événementiel. Donc du coup, sur l'événementiel, c'est cramé. C'est Nike fait
pour cette soirée-là.
Et donc là, tu sais qui c'est. Les égéries de marque, il y en a peu. Et quand il y en a, en vrai, tu le sais. C'est-à-dire que typiquement, t'as Puma qui fait Alonso et qui fait
Booba aussi.
Et qui a fait Booba un moment. Ça s'est arrêté pour. En gros, ils n'étaient pas d'accord, pas la même position par rapport à Poutine.
Ah,
et ouais, c'est ça. Je crois que Puma a voulu fermer ses stands en Russie et Booba a trouvé que c'était anti-liberté.
Aïe, aïe, aïe.
Et il a rompu
le contrat. Quelle conscience politique, Booba.
et du coup, t'as PLK, Alonso, qui sont chez Puma et c'est cramé. Ils le disent tout le temps. Ils disent on est égérie Puma, ils font du contenu avec Puma, ils arrobassent Puma. Adidas, t'as beaucoup d'équipes de Oumar Dino, donc un gros manager de rap qui s'occupe de Dinos notamment et de Dossé. Et bah du coup, tu as des OP spéciales, Dinos, Dossé, tu sais que c'est Adidas. Donc en vrai, de vrai, les OP, tu les vois. Parce que c'est dans des... ils font des choses. C'est-à-dire qu'en vrai, le truc que tu vois pas, c'est le gifting. En gros, les marques qui envoient des fringues aux gens. Mais comme ils ont aucune obligation de les porter, c'est qu'en fait, les mecs kiffent en général, tu vois.
Ouais, s'ils l'ont, c'est que...
C'est ça. Après, les OP avec les marques, tu les vois. Genre ASICS avec Jules, tu le vois en vrai.
Tu sais. Moi, ce qui m'interroge aussi, bon là, on transforme un peu la deuxième partie de l'émission en réflexion autour des marques, mais c'est pas grave, c'est intéressant. J'ai pas un avis tranché. Je veux pas, tu vois, faire genre le donneur de leçons, quoi que ce soit, la morale. Ou... Mais j'ai l'impression que parfois aussi, d'un point de vue purement culturel, les marques s'intègrent tellement à un mouvement culturel, à un milieu, qu'elles prennent une place qui est démesurée par rapport à ce que devrait être de la culture, de l'art, etc. Tu vois, de l'humain, des histoires et tout. Je pense à un média comme Camino, par exemple.
Ouais.
J'adore ce que font Camino. Mais les marques sont omniprésentes sans cesse sur
Camino. Après, c'est leur positionnement.
Elles sont tellement présentes que du coup, elles ont le même niveau.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, en parallèle, c'est aussi de la culture, Camino. En tout cas, ils le présentent comme ça. C'est aussi la street culture, etc.
Ouais, mais c'est la culture via la sape.
C'est vrai. Donc, c'est toujours, quand tu parles de sape, c'est toujours compliqué de mettre les marques de côté. Mais c'était un exemple pour exprimer le fait que parfois, dans l'histoire d'un mouvement culturel, etc., les marques, elles peuvent être présentes. Tu vois, il y a My Adidas de Run DMC, ça date pas.
J'allais parler de ça, ouais,
je sais bien, mais ça prend des proportions complètement hallucinantes et j'ai peur parfois que ça éclipse aussi qu'en fait le consumérisme complet est gagné, etc. Et que ça éclipse aussi l'art, l'œuvre, l'humain, les aventures, etc.
Je suis pas d'accord. Parce que en fait, pendant des années, les mecs portaient de l'Adidas, sauf que avant ils n'étaient pas payés.
Ouais.
Et aujourd'hui, je pense qu'on surestime quand même l'impact des marques parce qu'en vrai de vrai, il y a peu de marques qui sont arrivés de nulle part, qui n'avaient pas le lien avec le rap et qui ont réussi à s'imposer. J'en connais pas, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, Puma, Adidas, c'est du streetwear, en vrai.
Non, mais je veux dire, nous, encore une fois, je parle des anciens.
Des OG.
moi, je peux te dire que 94-95, la déferlante Eli Hansen, ça a été un truc de ouf. Tout le monde mettait des vestes de marin alors qu'il n'y avait même pas la mer à Paris, tu vois. Les doudounes South Pole, le polo sport. Le polo snow beach de Raekwon dans Can It Be Your Simple, c'est des trucs qui...
Ça, je suis d'accord, mais je pense que c'est alors, il y en a des marques qui vont le faire. Genre les Palmangels, etc., ils arrivent maintenant...
Quoi, pardon?
Palmangels.
Ouais, okay. Palmangels.
Ils arrivent à capter ce truc-là, mais la plupart des marques, c'est plus des effets de mode qui viennent des rappeurs, parce que le problème des rappeurs, c'est qu'ils veulent être dans la sape, ils veulent être toujours en avance. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il y a des marques qui, dans ce coup, pop grâce au rap, mais c'est pas toujours via du marketing. Limite, celles qui le font plus, et ça touche plus le rap US que nous, c'est les marques de luxe. Tu vois, et je vous invite à regarder une chaîne qui s'appelle Rap Is Crew, C'est une chaîne YouTube, tu parlais de Camino, on va dire, c'est un peu les deux opposés, enfin, pas, ils sont pas concurrents, mais ils ont vraiment deux axes différents. Okay. Rapid Crew, ils sont trop forts. C'est une chaîne YouTube qui fait des vidéos d'analyse, et pour le coup, tu parlais de critique, eux, ils défoncent. Ils défoncent tout le monde. Ils ne disent jamais rien de positif.
Ouais. Et, ça, c'est emmerdant, c'est quand même.
Parce que justement, eux, ils ont aucune OP avec les marques, etc. Ils sont dans un modèle, je sais pas comment ils vont gagner leur vie, mais pour l'instant, ils défoncent tout le monde. Et Rapid Crew, justement, explique, et ça, c'est grave intéressant. La dernière vidéo que j'ai vue, il parlait de Céline, la marque Céline. Et ils expliquent comment ces marques de luxe, pour le coup, là ça donne complètement raison, arrivent à s'imposer progressivement dans le rap.
Attends, et veut dire que Gazo, il aime pas Céline à la base?
Non, je dirais que, en gros, ce que ça dit, c'est que ils essayent de créer une hype autour d'une marque. Et ça veut pas dire que les artistes sont payés pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont un peu fait avoir par la hype, tu vois. Et que comme ils ont.
C'est de la diffusion culturelle, c'est la diffusion culturelle avec le temps, c'est ça aussi dont je parle.
C'est ça. Et qu'en gros, ils disent que Céline, je crois que c'est LVMH. Donc LVMH ont déjà à peu près tout a déjà été bouffé. Donc en gros, Louis Vuitton, ça a déjà été parlé. Balenciaga, ça a déjà été dit. Donc en gros, ils sortent la marque Céline qui, à la base, est une marque, je crois que c'était des chaussures pour enfants ou pour femmes. Finalement, c'est devenu ce que c'est devenu. Et là, maintenant, ils lui donnent un côté un peu plus streetwear dans le truc parce qu'ils se disent, tiens, comme les rappeurs sont toujours à la recherche de la prochaine marque qui va péter, un peu cool, et ben en gros, dans leur roster, ils font tourner, tu vois. Ouais. Mais ça a toujours existé. Juste avant, il n'y a pas d'argent, maintenant, il y a un peu d'argent. Et en vrai, on surestime le nombre d'opérations. Je pense que ce qui se passe en vrai de vrai, c'est que tu as des marques qui arrivent à pousser les bons influenceurs, plutôt aux US, et que c'est repris après par tous les autres qui ne sont pas payés pour ça, tu vois. Ouais. Et ça ne lisse pas le discours. C'est-à-dire qu'en gros, c'est juste du drip, entre guillemets. Au moment, tu vas te mettre en mode Céline, Céline, Céline. Tu vas t'habiller en Céline. Et, tu dis pas que la marque, elle est cool. En vrai, c'est juste, voilà, le truc est un peu stylé. Et puis,
Non, et puis, en plus, enfin, c'est vrai que finalement, quand on se pose la question de la proximité d'un rappeur avec la marque, dans l'absolu, on s'en bat les couilles. Enfin, moi, je m'en fous que le mec, il me dise qu'il adore Céline ou qu'il déteste Vuitton. Je m'en fous. Enfin, ça a pas de.
Encore une fois, si, en théorie, si. Je t'assure.
Non, ça va faire acheter. Oui, ça va faire acheter des watchers. Bon. Ça va faire acheter des
sweatshirts. Mais ils ont pas de position, genre en mode.
Mais voilà, tu dis pas un rappeur pour avoir un avis sur la mode.
Non, c'est vrai.
Et puis, il dit même pas que c'est bien. Il est juste en mode, je drip parce que j'ai acheté ça, tu vois.
C'est juste garder à l'esprit. Encore une fois, on revient sur ce regard critique. Ouais. Juste de dire comment s'organise notre monde, quels sont les intérêts de chacun, et savoir clairement ce que chacun fait. C'est juste, ça va pas beaucoup plus loin que ça.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais effectivement, je pense que la question se pose plus sur les médias et la proximité avec les marques que sur les artistes en direct, parce que finalement,
c'est un ensemble.
Savoir que
Kuba, artistes ont un rôle social aussi.
Savoir
qu'il
faut Kuba, pas négliger. Il préfère Xbox à PlayStation. Bon, c'est pas. Voilà. Ouais. C'est pas. T'achètes pas un album de Kuba en disant tiens lui il va critiquer Uncharted.
Non, c'est plus pas que ça.
Fout, tu vois. Par contre sur les marques la proximité là c'est un sujet qui est assez intéressant et qui est de plus en plus flou. Enfin tu vois il y a un petit mélange des genres, des conflits d'intérêts ici et là, etc. Et après toi tu le dis effectivement si t'es sur un média qui de base ne critique pas.
C'est ça. Bon, mais par contre ça pose une autre question de est-ce qu'il faudrait pas qu'on critique un peu dans le rap. Mais aujourd'hui t'as pas de mec à lisser son discours parce qu'en fait personne n'avait un discours dur.
Ouais. Et donc ça, effectivement, la question, c'est est-ce qu'il faudrait pas qu'on critique. Mais d'un autre côté, c'est pour te faire péter la gueule en bas de chez toi, par des équipes de mecs énervés.
Écoute, je te propose de faire le test. Alors, c'est une saloperie, tu nous dis si dans le prochain épisode, il t'est arrivé un truc.
Non, mais en fait, heureusement pour moi, on est trop petits pour... mais moi, je me fais allumer, bien
t'inquiète
sûr.
Pas, t'inquiète
moi, j'allume,
pas,
j'allume énormément.
On va faire un extrait qu'on va foutre sur un média bien agressif.
Parfait.
Et...
Parfait.
On va payer un média pour diffuser, on va voir ça de l'impact.
Florian, ce que je te propose pour terminer, c'est, et avant de terminer avec les rocos, enfin, il y a toujours avec un petit morceau musical, un petit morceau de musique. Juste terminons sur la communication, peut-être revenir un peu à 135 médias. Est-ce qu'il y a des manières spécifiques, c'était un peu l'idée de cette émission à la base, des communications, des manières de communiquer spécifiques vraiment à l'urbain, au milieu du rap, vous dans votre travail, est-ce que tu vois des différences, tu vois, voilà.
Avec les autres genres musicaux?
Ouais.
Ouais, carrément. Je pense que la grosse différence en vrai de vrai, c'est qu'on va dire les artistes ou leur public, au moins leur public et normalement les artistes, sont entre guillemets digital natives.
Ouais.
Donc ça veut dire que du coup, ils vont au bout des réseaux, ils créent de la proximité et ils ont les codes des réseaux. Que dans d'autres genres musicaux, c'est pas du tout aussi à l'aise.
Il y a une distance.
Il y a une distance. C'est rarement les mecs en question qui sont derrière l'initiative des réseaux, tu vois. Il y a une distance et il y a beaucoup moins de spontanéité que dans le rap. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux veulent que le contenu soit spontané. C'est ce qui marche. Ouais. Alors, il est rarement vraiment spontané, mais on fait semblant qu'il soit spontané. Je vais donner un exemple concret. J'étais amené à bosser avec Instagram, avec Bouscapé, donc on bossait avec Instagram, au moment où il lançait... alors, je sais plus quelle fonctionnalité, je crois que c'était IGTV ou je ne sais quoi. Et en gros, il disait, nous, ce qu'on veut, c'est que les artistes utilisent Insta comme Snap. À l'époque où Snap, là, Snap est un peu, même si c'est en train de, ça marche bien dans, auprès de certains publics, mais Snap est plus, en 2018-2017, ça faisait peur à plus de monde, tu vois. Maintenant, c'est TikTok. Et en gros, les mecs disaient, mais on en a marre que les artistes utilisent Snap pour raconter leur vie, filmer leurs coulisses, et utilisent Insta pour poster des vidéos,
de la photo promo,
des belles photos. Pas forcément que la photo promo, parce que c'est aussi un des problèmes, mais aussi surtout des belles photos en mode, ouais, c'est vraiment l'angle parfait, je suis beau, c'est tout dessus. Ils disent, on veut qu'il soit aussi naturel que sur Snap. Parce qu'il y avait le côté, Insta, c'est ma vitrine, Snap, c'est mon off, tu vois.
Or, les gens aiment les coulisses.
Aiment les coulisses. Et à l'époque, je parlais aussi beaucoup avec Gallo de Smile. Donc, Smile, c'est une agence d'influenceurs spécialisée dans les influenceurs urbains. Donc, c'est eux qui bossent avec Vargas, Just Riyad, et plein d'autres. Boris Becker, notamment. Et du coup, eux, à l'époque, ils l'ont encore d'ailleurs, un gros influenceur urbain qui s'appelle Just Riyad, qui était encore un moyen influenceur et qui a explosé après. Et la force de Just Riyad, c'est que lui, il avait capté ça. Donc, en gros, quand Instagram disait, ouais, faites des contenus comme si dans un été, bah, lui, sur Insta, il postait des vidéos selfie en feed. C'était une aberration, tu vois, où il racontait, il faisait des blagues, il racontait sa vie, etc. Et ça cartonnait. Et aujourd'hui, Just Riyad, c'est un des mecs qui a le plus d'abonnés parce que il a capté ce que l'audience voulait et ce que les plateformes voulaient. Et en l'occurrence, ce côté naturel, etc., etc., les artistes, ils captent que c'est ça qui marche. Donc, ils essayent de plus en plus d'aller vers ça, tu vois. Alors après, des fois, ils ont une DA qui fait qu'ils peuvent pas le faire. Donc, ils vont faire un peu différemment. Mais la réalité, c'est que les artistes rap, comme c'est des gros consommateurs de réseaux sociaux, ou quand ils ont des gens dans leur équipe qui sont des gros consommateurs de réseaux sociaux, c'est aussi notamment ce que nous on fait, ils vont comprendre ce qui marche et ils vont jouer le jeu et ils vont le faire de manière beaucoup plus subtile que un mec un peu plus variété en mode mentionne un pote qui aimerait bien écouter le morceau avec moi.
Ouais.
Ils ont beaucoup plus le truc.
Mais pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est vrai que c'est souvent des artistes rap qu'on voit péter des câbles. Là, en ce moment, il y a Kanye West qui fait n'importe quoi sur Instagram, tu vois, sur Twitter, etc., qui est dans une croisade contre son ex-belle-famille, etc. C'est rarement des...
Il avait des problèmes à la base, déjà.
Je
suis pas sûr que ce soit les raisons qui l'ont rendu.
Ce que je veux dire, c'est que des artistes bipolaires, il y en a dans tous les milieux, et que moi, je vois pas de... Tu vois, t'as jamais vu Angèle faire un pétage de câble sur Insta ou sur Twitter.
Je suis d'accord que des artistes bipolaires, on en a dans tous les milieux, et je pense que les autres, ils ont pas accès, ils préparent leur téléphone pour tweeter. Tu vois, que lui, ça passe par là, tu vois.
Parce que là, on parle de Kanye, mais il y a eu le Karoff aussi, à un moment donné, où le mec, tu sentais qu'il y avait son équipe de com qui essayait peut-être de lui arracher son téléphone.
C'est à partir du moment où tu mets tout ce qui te passe par la tête, ce qui est le jeu de l'audience et des plateformes.
Ça peut aller.
Il faut aussi parfois
le canaliser parce que.
Et il y a aussi un piège, je pense. C'est que par exemple, tu te rends. En fait, il y a un truc, c'est quand tu critiques, quand tu fais des posts un peu polémiques, ça cartonne. Et je parlais de ça avec un pote à moi qui est genre DA, tu vois, et qui tweet jamais. Et puis un jour, il a voulu tweeter un truc un peu. Négatif, genre en mode les gens qui s'imaginent DA et qui à la fin ramènent toujours les mêmes prods, un truc comme ça, tu vois.
Ouf.
Et lui qui, c'est un truc vite fait de ouf, hein. Ouais. Mais juste parce que c'était un peu négatif et un peu assassin, il s'est retrouvé à avoir genre des retweets, mais à son échelle, c'est peut-être un mec à 300 abonnés, et il s'est retrouvé à avoir peut-être 200 retweets, tu vois. Et là, il me dit, putain, j'avoue, critiquer ça marche, il faut pas que je tombe là-dedans parce que tu peux tomber dans ce truc de.
De la critique
parce que c'est que ça fait monter les trucs. Et je pense qu'il y en a plein qui, tiens, je vais être un petit peu piquant. Tu fais de l'audience, t'as l'impression que c'est une bonne idée, tu vois.
Bah, Daz, il fait que ça, hein.
Moi, je fais que ça sur Twitter, pour le meilleur et pour le pire aussi. Non, j'essaye d'être bienveillant, mais c'est compliqué. Mais effectivement, j'en vis pas, donc c'est pas grave.
C'est pas la même chose.
Ouais. Mais, je vois ça vraiment que dans le milieu rap, des artistes qui sont très présents et de manière très naturelle. Sur les réseaux, j'ai pas d'idée, en fait, j'ai pas de cas.
Ça s'adapte petit à petit. Moi, je vois des gens de la télé, par exemple, faire beaucoup, de plus en plus d'impression.
Ouais, je pense que c'est plus une question de génération. C'est qu'en fait, par exemple, toi qui as l'air d'être pas mal sur Twitch, ils sont trop forts, les mecs de Twitch sur les réseaux.
Ouais,
c'est abusé, tu vois.
Ouais,
les mecs de YouTube, ils sont trop forts. Les mecs de la télé-réalité, ils sont trop forts. Et en vrai, ils sont trop forts, même si je n'en ai pas, et je trouve ça pété ce qu'ils font, mais je reconnais qu'ils savent gérer des réseaux.
Ouais, bien sûr.
Donc je pense que c'est plus une question de génération.
Ouais, mais je veux dire, t'as des artistes de cette génération qui, tu vois, t'as des Vianney, t'as des mecs comme ça, tu vois.
Ouais, mais
qui...
ils sont plus vieux.
Ouais, je sais pas, hein.
Si on rend pas compte de son âge. Vianney doit avoir au moins 30 ans.
Ouais.
Les mecs du rap qui sont bons sur les réseaux, ils ont moins de 25, hein.
Bon, on met de côté Booba et Rof.
C'est ça. Non, mais on met même, tu vois, genre, les mecs sur les réseaux les plus forts, les artistes les plus forts, en vrai, c'est les plus jeunes, hein.
Ouais.
Et très vite, même les anciens artistes qui étaient bons sur les réseaux, ils se font dépasser par les nouveaux qui viennent d'arriver, tu vois. Parce qu'il y a un nouveau réseau social qui vient d'arriver, il y a un nouveau truc, tac, et les autres, ils sont trop chauds.
Sur la com, moi, il y a un point que je trouve très intéressant. Et d'ailleurs, je l'ai retrouvé sur votre site. Alors, je sais pas si ça correspond réellement à ça. Mais vous parlez d'accompagnement sur la prise de parole.
Ouais.
Et la prise de parole, moi, ce que j'y ai mis derrière, peut-être que je me trompe, hein. Mais c'est cette idée aussi que parfois la non-présence est tout aussi valable.
Ouais.
C'est ça derrière l'idée de la prise de parole.
Ouais, c'est l'idée de dire que quand tu prends la parole, tu dois savoir pourquoi tu le fais et donc comment faut le faire. C'est-à-dire que c'est quoi ton objectif final? Et du coup, l'idée que des fois ne pas prendre la parole, c'est aussi une décision qui veut dire quelque chose. En fait, c'est
ouais. Alors, on le voit dans certaines DA même d'aujourd'hui.
Ouais.
Est-ce que vous accompagnez des artistes qui ont cette idée de, au contraire, de le plus de recul possible? Et comment on arrive à rendre ça quand même, tu vois, avoir du succès avec ça, alors qu'on pourrait se dire ne pas être présent, c'est la mort, tu vois?
Alors, nous, on n'a pas d'artistes dans ce délire-là parce okay. que en vrai, la plupart qui ne communiquent pas, on se dit pas tiens, je vais prendre quelqu'un pour nous aider à pas communiquer. Donc déjà, ça règle le problème. Puis si après ils mettent notre prestation au ratio au nombre de posts Instagram, ils peuvent très vite se dire qu'ils ont posté une fois dans le mois, ça fait cher. Donc nous, on n'a pas trop ce genre de cas, mais on a par contre des cas d'artistes qui étaient très présents et qui nous disent venez, on va essayer d'être moins présents pour donner plus de valeur à la prise de parole. Comment on fait?
C'est depuis PNL qu'on observe.
En
ce genre
vrai,
de truc,
PNL Damso, ouais. Nekfeu surtout. Parce que lui, il est dans l'extrême, il a supprimé les réseaux, quoi.
Ouais. Alors qu'il était très présent aussi, à un moment.
Très présent à un moment. La force d'entourage à l'époque, c'était qu'ils étaient bons sur les réseaux.
Ils étaient tout le temps sur les réseaux.
Tout le temps là, ils faisaient des vidéos YouTube tout le temps, ils arrivent contendeurs, c'était trop. Et puis, d'un moment, il a tout arrêté, tu vois.
Mais que lui, parce que je vois Dean, il y est encore, Douce, il y est encore.
Exactement. Il y a que lui qui a vraiment arrêté, ouais.
En même temps, c'est celui aussi qui est devenu la star, qui va presque au-delà du rap.
Et qu'on a même plus vraiment besoin, du coup, des réseaux.
Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est un. Enfin, je pense pas que ça soit un calcul. Je pense que c'est vraiment lui qui a décidé de se préserver.
Je pense que parfois, il y a aussi la question un peu de la santé.
Les réseaux, c'est la merde. Hein. En vrai, quand t'es une star, franchement, c'est flemme.
Ah bah, tu te fais allumer. Bah, à plus forte raison, quand du coup, dans les médias rap, tu te fais jamais critiquer. Donc, tu te dis, bah, je vais tout niquer. Et puis, qu'après,
mais je dirais au-delà de la critique, parce que la critique, que t'aies des réseaux ou pas, elle va exister. C'est-à-dire que je pense que peut-être Nekfeu, après, il paraît qu'il a pas de téléphone et qu'il communique par mail.
Ah ouais,
incroyable.
Et donc, du coup, il y a des mecs qui ont pas de réseau. Mais qui regarde, qui tape leur nom dans la barre de recherche du Twitter.
Mais est-ce que Nekfeu est encore vivant? C'est peut-être pas lui derrière le mail, on sait pas. S'il répond plus,
peut-être pas.
Il y a des gens qui le voient encore.
On l'a vu sortir un album récemment. Mais par contre, je pense que ce qui est au-delà de l'aspect critique externe à tes réseaux, parce que ça, en vrai, que t'aies un compte ou pas, on peut fumer quand même, tu vois.
Tu vas le prendre, ouais.
C'est plus le côté, je pense que les réseaux te créent une mauvaise dépendance au nombre de likes quand tu postes, au nombre de commentaires, au DM que tu reçois. Tu deviens accro à ton téléphone, genre quel notif, quel truc, ça s'arrête jamais, t'es constamment sollicité, tu vois. Ça rend fou. Et je pense que quand tu coupes pour de bon, ça te fait un bien fou.
Ouais, non, c'est vrai. Je vais réfléchir à ça, d'ailleurs.
Les gars, on termine sur les recos. C'est quoi un peu votre... on parle souvent de délire musical du moment, ou le truc que vous pensez à fond. Peut-être, Florian, tu veux commencer? Il y a un truc qui...
Bon, alors déjà, moi, j'écoute mes artistes.
Tout le temps.
Pour de vrai. Pour de vrai. Ah non, mais c'est abusé.
C'est pas de la promo.
C'est genre, dès que je commence à bosser avec quelqu'un, je fais que de l'écouter.
Ok.
Et alors ça, c'est
bien. Ça veut dire qu'il aime vraiment ce qu'il produit.
Et
ça, c'est chouette.
Et plus je bosse avec, plus j'écoute, tu vois.
Ok.
Et donc, mais aujourd'hui, en reco, je vais parler d'un artiste que je kiffe, avec qui je bosse pas. Je suis arrivé trop tard.
Ok. Tu regrettes?
Je regrette parce que je le kiffe de ouf et en plus il cartonne. Mais je suis très content parce qu'il est signé en coproduction chez Sacha de Blue Sky, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est un pote et qui est très fort, et donc je suis très content que ça marche pour lui.
Okay, je commence à lancer en fond, vas-y, continue à nous présenter.
Et le morceau s'appelle Calme-toi, si je ne me trompe pas, parce que je suis très nul en nom.
C'est bien ça.
Et pourquoi je parle de ce morceau? Parce que c'est un morceau que j'écoute beaucoup, et en plus la prod a été faite par Franklin, dont on a déjà parlé ici, qui est un compositeur dont on a fait le contrat. Chez ce même mec, parce qu'en gros l'artiste et le compositeur sont signés au même endroit chez Blue Sky.
Okay.
Donc je suis content que cette signature ait fait qu'il ait bossé sur un artiste que avec lequel j'aurais voulu bosser.
Et bah très bien, c'est donc Kershak.
Exactement.
On écoute Kershak, Calme-toi.
La pédale c'est trop d'un baiser. Et ça fait de la jersey. Je suis pas sous caillou, les poumons sont neufs. Tu vas fermer ta gueule incessamment sous peu. Je suis descendu sur Marseille pour le son. Mon gars, le geste c'était pas pour la beuh. J'ai des trous dans les couches. Je sens que Daz adore.
Moi je suis très tolérant.
Ah ouais?
Ouais, j'élargis mes horizons.
On chope un petit refrain ou pas?
Ouais, il arrive. Là.
Il y a un côté hyper pop de ouf.
Ah bah c'est ça.
Moi j'appelle ça musique de flipper derrière.
C'est de la jersey, c'est de la drill sur des trucs électro. C'est particulier, hein.
Ok.
Mais je trouve ça trop chaud.
Alors tu sais quoi? Non, le côté justement.
Le morceau fait 1 minute 35.
Ah ouais, bah ouais.
Ah mais mec, c'est
1 minute 35, 135, c'est pour ça.
Mais je trouve, moi j'adore le côté ouais, je retrouve de l'hyperpop à fond là-dedans, c'est-à-dire mélange des genres, y compris du mauvais goût,
ouais, bah oui,
qui est considéré comme du mauvais goût, tu vois, un truc,
ils prennent le budget,
90, machin, etc. Et moi, j'adore ce trip. Après, c'est juste en termes de rap, c'est moins mon délire. Déjà, j'ai du mal à...
Mais c'est le flow qu'on trouve maintenant, hein.
C'est vrai.
Il faut s'habituer, hein.
Mais par contre, la prise de risque est cool.
C'est ça que j'ai kiffé. Ouais. Et puis, je kiffe le mec, hein, le Kershak, qui est trop, on parlait des mecs sur les réseaux. Ouais. Très bon exemple. Lui, avant d'être un rappeur, c'était un peu un tweetos, tu vois, genre un mec populaire sur Twitter.
Ok.
Et tu le vois, il est trop fort dans sa com. Parce que du coup, il a ses réflexions.
Il a les codes,
il a les codes à la base. Lui, il part de ça. Donc, quand il gère Twitter, c'est paf, tout droit, tu vois. Mais il est cool.
Parfait. Daz, t'as choisi quoi, toi?
Alors, changement d'ambiance. Non, moi, je suis toujours, tu vois, on en parlait.
Est-ce qu'il y a du sample dans ce morceau?
Ouais, alors là, c'est même qu'un sample. Moi, je kiffe. Tu sais que je kiffe le sample. Ouais. Quand il est en plus minimaliste, c'est-à-dire juste le sample et le mec qui rappe. Là, les gars, ils ont juste pris le morceau original, qui est un morceau de Miles Davis, et ils ont appuyé sur play, et ils rappent par-dessus. Et comme c'est un titre de Miles Davis qui est à la base un trompettiste, mais là c'est un truc qui s'appelle le Man with the Horn qui est assez moderne, c'est années 80, tu vois, quand il commence à plugger des machines et tout.
Okay.
Franchement, l'ambiance comme d'habitude, elle est... fumez ce que vous voulez là.
Et alors c'est quoi?
C'est London Drugs.
Ok.
Donc London Drugs, c'est Jay Warzy qui est un mec de Compton, de Bampton, donc c'est un blood de Compton, et son beatmaker qui est un mec de Vancouver, je crois.
Ok.
Et bah, l'ambiance, encore une fois, l'ambiance, les sons, c'est...
Et le morceau s'appelle Soraire.
C'est plus lent.
Ah mais c'est très bien.
4 minutes.
Ah mais par contre c'est très long.
C'est très très long. Mais du coup, le morceau qu'on entend là, c'est l'original de Miles Davis. Derrière, il a même pas été accéléré, ralenti.
Même pas de drums par-dessus ou...
Non.
Ouais, non. C'est une cover.
Ah, c'est complètement ça. Et ça, j'adore.
Très cool.
London Drugs, écoutez, hein, c'est vraiment de la très très bonne musique.
C'est chaud.
Eh ben, je vais terminer, moi, avec ma petite reco. Et alors, vous savez quoi? Je suis incapable de vous parler de l'artiste. Je sais pas ce qu'il fait à côté. Et je connais que ce morceau-là.
Ok.
Et...
ça dure 2 minutes 15.
Ça me met une claque. Parce que c'est... bon, je vous fais écouter. Vous me dites ce que vous en pensez.
Qui est l'artiste?
Comment t'as découvert?
Pardon, c'est pas le Parallax. Le morceau s'appelle Amnésie. Comment j'ai découvert de la reco Spotify?
Bah voilà.
Tout simplement. On en parlait. On en parlait.
Ah ouais, absolument. On en parlait. Et ouais, on en parle après.
Ça démarre comme n'importe quel morceau de rap français.
J'avoue. Tu ramènes Kershak là-dessus.
Il va tout tuer.
On dirait qu'ils ont lâché un chat sur un synthé.
C'est un peu ça. Mais justement... en fait, tout le long, le morceau... il y a presque un côté random, entre guillemets, et en même temps, tu sens une certaine maîtrise, déstructurée, même au niveau rythmique. T'as l'impression que ça évolue, tu vois, que les musiques pop, que les notes sortent pas exactement, tu vois, sur le temps, etc. Et en fait, ça donne une espèce, ouais, d'odyssée électronique, de trucs qui sortent un peu comme ça, et que je trouve incroyablement prenant, et que je trouve la prise de risque aussi très intéressante.
Parce que t'en parles comme si le morceau faisait 8 minutes.
Non. Mais justement, il y a pas besoin, tu vois, que ce soit long, mais c'est juste, il y a tellement de choses se passent,
ouais,
tu vois.
Ça part dans tous les sens, ouais.
T'es surpris à chaque seconde presque, tu vois.
Et j'écouterai ça sur ma trottin en entrant.
Parfait. Ben les gars, on a fait un bon tour.
Ouais, carrément. Merci à vous.
C'était trop bien. Cool. Merci Florian d'être venu.
Merci pour l'invitation.
C'était ultra intéressant.
Ça tue.
J'espère qu'aussi ça va plaire aux gens et qu'ils auront appris des choses, notamment dans la perspective, pourquoi pas, s'ils rêvent d'être artistes ou je ne sais quoi, de comprendre un peu mieux cet univers. Ce serait très cool. On remercie aussi, bah, je te remercie Daz.
C'est un plaisir. Plaisir sans cesse renouvelé, bien sûr.
La bouclette aussi pour toute la technique. Merci les gars de nous aider à faire cette émission. Thomas, évidemment, qui nous aide aussi à faire cette émission. Et c'est important. On pourrait pas la faire sans Thomas. Non. Donc, SO les gars. Et puis, François aussi qui fait le montage. On se retrouve dans 15 jours. Et ça va être trop bien. On va parler de reggaeton. Incroyable.
Ah oui, bah oui. Oh
là, je pense qu'on va essayer d'écouter plein de morceaux, c'est pour accompagner et tout.
Non.
on va essayer. D'ailleurs, je l'ai pas précisé. Tu sais quoi, je l'enregistre comme ça, on le mettra au montage. Si à un moment il y a une coupure dans les recommandations dans cette vidéo YouTube, c'est normal, c'est qu'on aurait eu des emmerdes avec les droits. Parce que ça, c'est le nouveau flip maintenant qu'on fait des recos à la fin.
Ouais.
Je sens qu'on va avoir des galères, mais
moi je prends que des mecs qui sont soit morts, soit en prison.
Allez, ciao, ciao tout le monde, à bientôt.
Salut.
Merci encore Florian.
Ciao.